séance de secours, donc coordonnée par Antoine Picon. Je suis donc professeur à l'École des Ponts et chercheur au LATS, donc le Laboratoire Technique Territoires et Sociétés, qui est l'un des laboratoires de sciences sociales et humaines de l'École des Ponts. Voilà, de formation, donc je suis ingénieur et architecte et mes objets d'études concernent les infrastructures et les dynamiques métropolitaines, donc que vous verrez au travers des deux séances donc, qui vont clore ce cours. Alors, dans les séances précédentes, donc j'espère que vous avez eu l'occasion de regarder la séance notamment consacrée à la vie numérique, qui était d'ailleurs en ligne. Vous êtes donc revenu sur un certain nombre d'objets, d'artefacts qui, effectivement, établissent des liens entre la technique et la ville, qu'il s'agisse de la ville numérique ou avec Fanny Lopez, par exemple, sur les questions relatives à l'ordre électrique ou à l'autonomie énergétique. Vous avez aussi vu à ces occasions que l'émergence des inventions techniques ou de nouvelles modalités relatives à leur utilisation a souvent été accompagnée de prophéties, de prédictions qui se sont rarement révélées exactes, même si en même temps elles ont influencé le cours des choses. Et ce qui se dit aujourd'hui sur la Smart City ou sur les effets supposés du véhicule autonome doit aussi être éclairé par cette longue histoire des empreintes des techniques sur nos villes, longue histoire qu'incarne celle, par exemple, de l'École des Ponts depuis plus de 250 ans. Les cours ont aussi montré, il me semble, que les techniques qui sont inscrites dans des cadres urbains sont des objets politiques, culturels, sociaux, dans la mesure où ils sont appropriés par la collectivité, dans la mesure où ils font l'objet de décisions, qu'ils sont l'enjeu de pouvoir aussi. Et de ce point de vue-là, je vous renvoie à cette citation de l'historien Marc Bloch, donc en 1938, hein, il est mort en 1940, mais l'édition est tardive. L'invention n'est pas tout, encore faut-il que la collectivité l'accepte et la propage. Ici, plus que jamais, la technique cesse d'être la seule maîtresse de son propre destin. Alors, dans l'appréhension du couple que forment la ville et la technique, il convient, il me semble, de prendre garde à deux pièges. Le premier piège, c'est celui du déterminisme, c'est-à-dire celui selon lequel, effectivement, une invention technique, effectivement, déterminerait une transformation. Or, il n'y a pas de rapport simple de cause à effet, mais des causalités plus complexes. Les mobilités, les infrastructures de transport ne se développent pas ex nihilo, dans un milieu neutre, elles se forment à partir des territoires, des usages, qui vont les modeler en même temps qu'ils se transforment dans des contextes historiques et spatiaux qui peuvent être très très différents. Ce qui conduit à observer des différences notables d'usage, de modèle, d'architecture, selon que l'on se déplace à Tokyo, Paris, Rotterdam ou Los Angeles. Ces pratiques ne devant pas leur différence seulement à des contextes spatiaux différents, mais aussi à l'histoire de leur enracinement. Le deuxième piège, c'est celui du dualisme, qui verrait la technique du futur supplanter celle du passé, la rendant obsolète. Là encore, les techniques ne se substituent pas, mais s'additionnent, se stratifient. Et comme le dit l'historien David Edgerton, il y a souvent un risque d'éblouissement face au futur qui donnerait à l'avenir de la technique une sorte d'aura de promesse qui réglerait les embarras du présent. Alors, deux exemples dans l'histoire récente. L'exemple du tramway en région parisienne. En 1925, la région parisienne est équipée de 122 lignes de tramway, 1100 km qui desservent Paris et sa banlieue et qui sont utilisées par 720 millions de voyageurs par an. Mais le tramway est jugé dangereux, bruyant, obsolète. Surtout, il est condamné à la fin des années 20 face à d'autres techniques de transport qui vont lui faire concurrence et qui peuvent être jugées plus modernes, plus efficaces, comme l'automobile ou le métro, dont la première ligne a été ouverte à l'occasion de l'exposition internationale de 1900. Ce qui fait que le 15 mai 1937, la compagnie de transport parisienne va organiser une fête pour l'enterrement de la dernière ligne parisienne de tramway, tandis que certains clament partout que les Parisiens ne sont pas prêts de revoir le tramway circuler dans la capitale. On parle à l'époque, je cite, d'une mouvante fabrique de catastrophes, d'un écraseur, d'un broyeur, d'un concasseur, d'un laminoir, tout un champ lexical qui, vous voyez, est très riche. Ceci dit, on connaît la suite de l'histoire. 50 ans après, c'est la Seine-Saint-Denis qui réactive l'idée du tramway avec le tramway Saint-Denis-Bobigny. Alors certes, la région parisienne est moins équipée que d'autres villes en Europe, notamment, qui n'ont pas abandonné leur tramway, mais on voit bien qu'effectivement, les techniques ne s'abandonnent pas comme celle-là et peuvent être réactivées avec une imagerie moderne qui, effectivement, leur permet de s'affirmer dans la concurrence avec les autres modes de transport. Autre exemple, autour de la question des infrastructures, et notamment des infrastructures du Grand Paris. On a l'actualité, bien sûr, du Grand Paris Express, ce super métro qui donc va desservir un certain nombre de villes en région parisienne sous la forme de rocade. Ou, je ne sais pas si vous êtes allé voir l'exposition des routes du futur qui a été présentée au pavillon de l'Arsenal l'année dernière et qui présentait un certain nombre de projets qui visaient à révolutionner l'aménagement des routes. Donc avec ce sentiment d'un nouvel âge qui finalement résorberait les embarras du passé. Ceci dit, là aussi, si on revient dans l'histoire, effectivement, on constate qu'un certain nombre d'infrastructures jugées modernes ont été appréciées selon leur capacité, effectivement, à résorber, à remplacer, effectivement, des infrastructures vétustes. Et je citerai à cet égard les propos de Maurice Doublet, donc préfet de la région parisienne, qui en 1972, donc alors que le périphérique va bientôt s'achever, sa construction s'achève en 1973, alors que Roissy, Charles de Gaulle, donc, est pratiquement aussi en train de s'achever en 1974, alors que le RER A donc, est en construction, il va s'achever en 1977. Donc Maurice Doublet, qui donc déclare devant un parterre d'ambassadeurs, la décennie 1960-1970 sera celle du périphérique et du RER, réalisation qui, par leur fini, sur le plan de la technique et de l'adaptation au site dans le domaine de l'esthétique, s'offre à l'admiration du monde. Ces infrastructures, désormais, sont aussi confrontées à la massification des usages, à l'obsolescence de leurs pratiques, à la vétusté, et elles sont aussi critiquées par rapport à d'autres infrastructures jugées plus modernes qui pourraient les remplacer. Donc pour comprendre les empreintes des techniques dans nos sociétés et en particulier dans nos villes, il nous paraît indispensable de comprendre leur histoire, c'est-à-dire le temps long, en fait, de l'enracinement de ces nouvelles pratiques dans l'espace dont elles héritent. Il y a un troisième piège à éviter, c'est celui de l'amnésie spatiale et temporelle, dans la mesure où on voit bien qu'il est important de s'attacher à étudier les rapports entre ville et technique dans des contextes territoriaux et urbains spécifiques, mais aussi dans des perspectives qui travaillent la durée, parce que la ville, avant tout, elle est constituée effectivement d'une série de strates d'histoire qui sont superposées et qui ne s'annulent pas les unes aux autres. Alors, dans ce cours, bien sûr, vous avez assisté à un certain nombre de conférences qui à la fois partent de questions contemporaines et qui, à chaque fois, vous ont projeté, en fait, dans des perspectives historiques. Donc, l'histoire, on ne la fait pas juste pour l'histoire, mais elle peut beaucoup, en fait, pour comprendre les questions contemporaines. J'en cite quelques-unes dans cette diapo. D'abord, c'est un corpus de connaissances, une discipline d'analyse qui permet effectivement d'accumuler un certain nombre de savoirs et donc de comprendre en fait les contextes dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui. C'est aussi effectivement une occasion de relativiser un certain nombre de notions un peu radicales. Nous le verrons à propos de la ville aérienne, comme les notions de pionnier, de vainqueur, de rupture, de compétition, d'avance, de retard. Tous ces mots qui effectivement apparaissent souvent dans la rhétorique consacrée effectivement à l'usage de la technique. C'est aussi une façon d'éclairer des pans masqués de l'histoire, par exemple de mettre à jour les critiques passées des contemporains sur les techniques émergentes. Je vous renvoie à cet égard à l'ouvrage « L'événement anthropocène » de Jean-Baptiste Fressot et Christophe Bonneuil, qui analyse effectivement sur le temps long les critiques de nos anciens sur l'émergence d'un certain nombre de techniques et donc déjà la prise de conscience effectivement de l'effet des techniques sur nos milieux et sur notre environnement, de comprendre aussi les retournements de représentation, comment à un moment expliquer qu'une infrastructure, qu'une technique qui a fait l'objet d'un enthousiasme patent puisse ensuite effectivement se transformer en objet critiqué, stigmatisé, à l'instar du périphérique, de l'automobile ou de l'aviation, par exemple, sur laquelle nous allons revenir aujourd'hui. Autrement dit, de constituer finalement des objets contemporains comme des objets d'histoire, qu'il s'agisse de l'optimisme technologique, de la perception du déplacement, de la créativité des prototypes, toutes choses que nous allons voir à propos de la ville aérienne. Alors, aujourd'hui, donc, je vous propose effectivement de nous focaliser sur le cas de la ville aérienne. Alors, qu'est-ce que j'entends par ville aérienne ? C'est l'espace, finalement, l'espace, on verra de manière très large, hein, par lequel la ville et la mobilité aérienne se sont rencontrées. Donc, pour moi, ce n'est pas uniquement l'aéroport, même si, notamment dans la deuxième partie, l'introduction reviendra sur cette infrastructure, même si, à propos de cette infrastructure, on verra qu'on peut l'entendre de manière beaucoup plus large que les limites stricto sensu de l'aéroport. Mais la ville aérienne, c'est aussi effectivement tous les effets de cette rencontre entre l'aviation et la ville qui se perçoivent à d'autres échelles et d'autres niveaux et qu'il est important de comprendre pour effectivement saisir finalement l'emprise de cette technique et du vol de manière plus générale sur nos sociétés. Alors, en quoi cela peut éclairer notre propos, notamment par rapport à nos préoccupations du cours? Le premier point, d'abord, c'est qu'en un siècle, hein, le premier vol mécanique des frères Wright, donc sur une plage de Caroline du Nord, c'est en 1903. Donc en un siècle, en plus d'un siècle, le transport aérien est devenu un transport incontournable des échanges internationaux, avec un poids considérable dans l'économie mondiale, qu'il s'agisse des compagnies aériennes, qu'il s'agisse des constructeurs aéronautiques, qu'il s'agisse des groupes aéroportuaires, et à l'impact environnemental tout aussi considérable. En 2014, les chiffres ont augmenté depuis, le transport aérien commercial était responsable de 2,5% des émissions de CO2, soit à peu près deux fois plus que les émissions totales de la France sur son territoire, et contributeur à hauteur de 5% au changement climatique par l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre produites. Pourtant, la conquête de l'air, quand elle s'est produite, s'était réalisée au son d'une sorte d'optimisme pionnier. Les aéronautes qui étaient en ballon, donc bien avant que l'aviation mécanique n'apparaisse, admiraient dès la fin du XVIIIe siècle le spectacle magnifique de la nature. Il y avait cette sorte d'arrachement de la Terre pour effectivement retrouver la cohésion avec le milieu. De même, sur la question effectivement de l'arme aérienne, hein, l'arme de destruction massive, qu'elle constituera notamment à partir de Guernica, puis des bombardements de la Deuxième Guerre mondiale et depuis, l'arme aérienne, parce enfin, l'aviation, parce qu'elle permettait à certains d'imaginer effectivement un franchissement des frontières, était argumenter comme effectivement la possibilité d'avoir une sorte de paix mondiale. Donc on trouve toute une série de discours relatifs effectivement au progrès aéronautique qui valorise ce motto de la paix mondiale. Donc on a besoin d'éclairer aussi ces contradictions en fait d'un imaginaire positif qui a contribué en même temps avec d'autres à un certain nombre de dérèglements que nous connaissons. Et puis l'intérêt d'étudier aussi cette emprise finalement du vol sur nos sociétés, ce macrosystème aéronautique, comme le dit Alain Gras, c'est aussi de s'attacher finalement à la dimension planétaire d'une invention, de son déploiement, de comprendre en fait les différents impacts qu'elle a eus. Donc ce premier angle de notre intervention, l'emprise de la culture aérienne, touchera donc à l'emprise des pratiques aériennes sur nos sociétés, à l'occasion duquel nous verrons que les impacts de la naissance et du développement de la mobilité aérienne depuis plus d'un siècle ont touché des pans techniques, politiques, sociaux, esthétiques de nos sociétés, ce que nous appelons donc la culture aérienne. Le deuxième point que nous aborderons touchera à l'empreinte de l'infrastructure aérienne sur la ville, c'est-à-dire l'infrastructure, tout ce jeu de médiation, en fait, artefacts territoriaux, architecturaux, urbains, mais aussi autorités aéroportuaires, pouvoirs, par lesquels effectivement la mobilité aérienne rencontre la ville. Là aussi, comme je vous le disais, l'impact de l'infrastructure ne peut pas être cantonné aux limites stricto sensu de l'aéroport, c'est-à-dire à son périmètre juridique, et nous verrons que son empreinte est large et diffuse, matérielle, territoriale, institutionnelle, économique, imaginaire, ce qui conduit aussi à éclairer les différentes controverses qui ont porté sur ces grands équipements, notamment récemment en France, qu'il s'agisse du projet contesté de Notre-Dame-des-Landes ou de la privatisation d'aéroports de Paris, et sans doute d'autres encore. Une viendra certainement, c'est celle autour effectivement du futur terminal 4 de Roissy. Donc ces contestations, elles sont aussi intéressantes, ces controverses, parce qu'elles permettent d'un moment de cristalliser un certain nombre de divergences. Elles ont besoin aussi d'être éclairées par cette compréhension de tout un faisceau de représentations, de questions, d'enjeux, effectivement, qui touchent à l'impact de ces grands méga-équipements, finalement, sur nos territoires. Alors, pour commencer, donc, cette première partie, lorsque donc, l'aviation est née au début du siècle dernier, donc, comme le montre cette photo de 1903, c'est une invention créée alors, par toute une série d'inventeurs, de scientifiques. Les frères Wright, ils ont aussi un atelier de bicyclettes à partir desquels ils bricolent hein, dans l'Ohio. Donc il y a cette idée effectivement de renouer avec le midi-car pour effectivement créer un avion, créer un appareil, effectivement un aéroplane à l'époque, qui s'élève du sol. Alors là c'est l'aviation mécanique, mais bien sûr la mobilité aérienne, elle existe depuis plus longtemps, hein, notamment depuis 1783-1785 avec l'invention des montgolfières, des ballons, puis ensuite le dirigeable. Donc c'est déjà inscrit dans une épopée longue, mais là effectivement on est sur un vol mécanique. Qui permet effectivement d'aller un moment plus loin, plus vite, et puis surtout effectivement de s'appuyer sur la mécanique pour avancer. Alors, à l'époque, l'aviation n'est pas, enfin, est ce que Emmanuel Chadeau appelle une invention sans besoin. Emmanuel Chadeau, historien de l'aviation, décédé depuis une vingtaine d'années. C'est-à-dire une invention sans besoin, dans la mesure où, effectivement, elle ne se substitue pas à des techniques de déplacement qui existent, et sa création, enfin son développement, ne vont pas être avancées par, effectivement, des entreprises ou des besoins militaires ou des besoins industriels qui supposeraient qu'effectivement elle puisse se développer de manière aisée. Donc cette invention sans besoin va aussi rechercher à un moment ses mécènes et puis va aussi essayer de rechercher les voies de son développement, les voies de ses usages, d'où un certain nombre de champs des possibles qui effectivement est ouvert par cette invention. Alors évidemment les frères Wright sont les premiers, effectivement, à faire s'élever ces avions en 1903, mais d'autres inventeurs existent en Europe, en Allemagne, en France notamment, avec une certaine concurrence aussi, concurrence scientifique, technologique, entre ces différents inventeurs. Alors, dans cette phase d'ébauche, finalement, où rien n'est joué, quels sont les moteurs qui favorisent le développement de l'aviation et en quoi, finalement, préfigurent-ils ces dimensions sociales et culturelles? Donc, d'abord, des moteurs technologiques, parce qu'il y a un certain nombre de découvertes, effectivement, scientifiques sur les propriétés des matériaux et des métaux, leur résistance notamment, sur l'investigation météorologique, sur les circulations des fluides, donc toute une série de découvertes, hein, d'avancées qui permettent d'expliquer l'invention et l'avènement de l'aéronautique. Mais en retour, et c'est là où on retrouve cette question du déterminisme beaucoup plus complexe que simplement de cause à effet, l'aéronautique se développe aussi parce qu'il y a un intérêt des sociétés savantes, parce qu'il y a des supports politiques, militaires, parce qu'il y a aussi des attentes sociales. Et en se développant, l'aéronautique aussi permet de développer, en retour, effectivement, l'économie des savoirs technologiques. Deuxième type de moteur, hein, moteur politique. Alors, j'ai mis en haut à gauche, notamment, une gravure qui montre l'événement du siège de Paris en 1870 avec l'utilisation, donc pendant la guerre franco-prussienne, avec l'utilisation de ballons de siège qui vont s'élever de Paris assiégé par les Prussiens pour aller porter, notamment, le courrier postal au-delà des enceintes, aux combattants, effectivement, qui essayent de libérer Paris. Donc cet événement va effectivement permettre de célébrer aussi le génie, l'inventivité française, va louer aussi l'esprit de résistance et va aussi avoir un impact durable, effectivement, sur les opinions en popularisant l'invention aérienne et en permettant, après coup, la revalorisation de la recherche dans le domaine du dirigeable notamment. Mais on peut aussi citer dans les moteurs politiques le développement d'une concurrence, nationale et économique qui, entre autres, va conduire au premier conflit mondial, mais qui aura aussi un effet sur l'invention aéronautique dans la mesure où on va passer à l'occasion de la Première Guerre mondiale où l'aviation va être utilisée plutôt comme instrument de reconnaissance aérienne. On va passer d'une phase expérimentale à une nouvelle industrie, notamment après la Première Guerre mondiale. Et là, cette conquête de l'air va être mobilisée dans chacun des récits nationaux. Par exemple, l'histoire de l'aéronautique anglaise va être marquée notamment par son héritage colonial, lié à celle de la Royal Air Force, ainsi qu'au développement des lignes aériennes en fait, qui vont consolider tout l'Empire britannique mondial. Donc c'est une façon, d'une certaine façon, de favoriser l'unité effectivement, de l'Empire britannique. Côté français, j'ai mis l'ouvrage d'Emmanuel Chadeau, « Le rêve et la puissance ». C'est plutôt dans des approches économiques et industrielles que va se focaliser l'effort aéronautique. Et côté allemand, l'aéronautique allemande va compenser finalement l'interdiction d'un développement militaire après la Première Guerre mondiale en promouvant une culture de l'air patriotique et rassembleuse, notamment autour du développement du Zeppelin, donc du dirigeable. Du côté des États-Unis, enfin, la question va devenir progressivement prééminente, confortant l'unité nationale sur un grand territoire. En plus, il est clair que l'aviation, comme l'automobile, va trouver effectivement sur le territoire américain un territoire de développement assez inédit. L'identité pionnière aussi des inventeurs et va placer progressivement l'Amérique comme première dans cette globalisation. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, 2 millions de travailleurs américains seront actifs dans l'industrie aéronautique, qui sera donc la première industrie au monde. Puis ensuite, la guerre froide va encore renforcer ce complexe industrialo-militaire. Troisième type de moteur, la popularisation de l'invention. Comme je le disais, c'est une invention qui a besoin, effectivement, de trouver ses mécènes, de trouver son public pour gagner des fonds, pour pouvoir se développer, pour effectivement susciter un certain nombre d'usages. Et puis l'invention, donc, elle va se populariser au travers notamment d'une série de meetings. Donc on a ici un lien entre l'invention aéronautique et toute la question effectivement du sport, des exploits, de la spectacularisation, qui va se traduire au travers des salons de la locomotion aérienne. Je montrais précédemment la photo du salon de la locomotion aérienne qui s'est tenu au Grand Palais en 1909, qui s'est poursuivi jusqu'en 1953 au Grand Palais, pour ensuite se transférer au Bourget, hein, le salon du Bourget en étant l'héritier. Mais on a aussi des exploits qui sont publicisés lors de meetings aériens, comme ici par exemple à Bétheny, à côté de Reims, hein, lors de la grande semaine de l'aviation, à l'occasion de laquelle on a toute une série d'exploits, de vitesses, de durées, de trajets, etc. Les badauds, mais aussi les édiles, les ministres, etc., se déplaçant à Bétheny pour effectivement admirer cette invention qui, effectivement, progresse aussi à mesure du développement de ces événements. Alors, cette invention, elle va être aussi popularisée au travers de la presse, notamment la presse illustrée, des photographies, des gravures, des cartes postales, des magazines illustrés, de la photographie, etc., qui vont former tout un corpus, finalement, iconographique, tout un corpus de représentation qui va faire connaître, qui va rendre visible, rendre réelle, effectivement, cette invention et qui contribue, effectivement, à la diffuser. Autre moteur, enfin, esthétique, perceptif. Parce qu'avec la culture populaire, il y a aussi une culture visuelle suscitée par l'aviation qui bâtit effectivement, au travers de la photographie aérienne notamment, de nouvelles perceptions sensitives, visuelles de l'espace. Et il est clair qu'il y a un lien assez étroit entre la photographie, le cinéma et l'émergence de l'aviation. Comme le montraient l'année dernière deux expositions, une exposition qui a eu lieu au CAUE des Hauts-de-Seine sur la photographie aérienne, et une très belle exposition aussi à la BNF sur Nadar, qui retraçait effectivement l'épopée de ce génial inventeur, à la fois aéronaute et photographe, mais pas seulement. qui a réalisé en 1858 la première œuvre de photographie, la première épreuve, pardon, de photographie aérostatique, et relatera dans ses mémoires, je cite, les prestigieuses impressions que lui a procurées son ascension au-dessus des environs de Paris. Alors cette citation est assez intéressante parce qu'elle montre aussi les différentes représentations qu'éprouve donc l'aéronaute qui s'élève hors du sol. Hein. Donc je cite, enfin l'homme respire, dégagé de tous les liens avec cette humanité qui achève de disparaître à ses yeux, qui en même temps, avec cet arrachement effectivement, est conjugué à la fascination qu'il éprouve lorsqu'il contemple le spectacle de la Terre qu'il découvre du ciel. Il faut imaginer effectivement ce qu'ont éprouvé ces hommes qui se sont élevés de la Terre. Alors bien sûr, ils pouvaient voir du haut, depuis les belvédères, depuis les toits effectivement des grandes églises, etc. Mais là, c'est une élévation qui effectivement a une autre dimension. Et donc, je cite, là aussi, il écrit « Mais une autre extase nous rappelle vers l'admirable spectacle offert à nos regards charmés. Sous nous, la Terre se déroule en un immense tapis sans bord, sans commencement ni fin, aux couleurs variées où la dominante est le vert, dans tous ses accents comme dans tous ses mariages. » Et cette élévation conjuguée à la découverte aérienne de la Terre l'amène à vouloir fixer par l'image ce qu'il voit, traverser par la pensée de photographier ces merveilles. Donc cette citation qu'il relate dans ses mémoires, hein, quand j'étais photographe, montre à la fois cet effet d'élévation et en même temps cette volonté effectivement de fixer ce qu'il a sous ses yeux et l'effet effectivement que l'aviation, mais aussi les ballons précédemment, et donc c'est ce qu'il utilise ici à Paris, les nouvelles perceptions effectivement que permettent ces appareils et ces engins. Alors, ces moteurs technologiques, politiques, esthétiques, de diffusion populaire, se conjuguent et donc participent de ce que j'ai appelé, de ce que nous avons appelé avec Marité Bossorger notamment, la culture aérienne, c'est-à-dire une culture qui est constituée d'un faisceau de pratiques, les navigateurs, les pilotes, d'objets, les machines diverses qui coexistent, qu'on pouvait voir en 1909, mais qu'on peut voir aussi au Salon du Bourget, les récits des épopées, des exploits, de leur popularisation, qu'on trouve encore vifs aujourd'hui, ne serait-ce que quand on relate effectivement les exploits de l'avion solaire, par exemple de Solar Impulse, et qui perfusent aussi les arts, les dimensions politiques et militaires, la géographie, on le verra, au niveau notamment des échanges continentaux et transcontinentaux, les usages plus globalement. Alors, cette culture aérienne, elle est à observer sur la longue durée et elle travaille notamment deux questions transversales qui sont tout à fait contemporaines et que je voudrais aborder maintenant. D'une part, celle de l'optimisme technologique, sans cesse renouvelé par la créativité des prototypes, j'ai cité l'avion solaire, qui en même temps va se confronter à la banalisation des routines, à la massification et bien sûr à la faille technologique, à la faille environnementale. Et puis, deuxième objet qui résiste sur l'histoire, c'est celle de l'anthropisation du milieu, anthropisation comme anthropos, c'est-à-dire finalement l'effet par ces techniques, par la marque de l'homme, de cette culture aérienne finalement sur nos milieux, cet effet étant accumulatif. Donc c'est ces deux points que je voudrais aborder maintenant. D'abord un imaginaire que j'ai appelé de tragiquement positif, donc avec cette contradiction qui apparaît dans le titre. Et je voudrais citer André Borschberg et Bertrand Piccard, donc ils sont ingénieurs et co-inventeurs de l'avion solaire, donc cet avion qui marcherait qu'effectivement qu'à l'énergie solaire, et qui a bouclé en fait le 26 juillet 2016 à Abu Dhabi son premier tour du monde sans carburant. Donc en 2014, les inventeurs disaient dans un interview au Monde, on veut montrer que les technologies peuvent changer le monde, pour cela on a besoin d'inventivité, mais aussi et surtout de courage politique. Donc on voit que cette envie effectivement de renouveler les prototypes, de réinventer effectivement des inventions qui pallieraient les effets négatifs des inventions précédentes, est toujours patent, hein, donc, et qu'on a une culture qui est quand même toujours marquée effectivement par l'enthousiasme et par la volonté effectivement de renouveler les choses pour épouser effectivement les contextes du moment. De même, quand les frères Wright, j'ai mis la photo donc, de 1903 à côté, non pas qu'il y ait un parallèle, mais après on pourra le trouver, quand les frères Wright, effectivement, font s'élever cet avion donc sur une plage déserte de Caroline du Nord. Ils photographient d'ailleurs également l'événement parce qu'ils étaient photographes. Il y a cette idée, effectivement, de communion avec la nature, de trouver un mode de transport, un mode de déplacement, effectivement, qui permettrait aussi de s'affranchir à un moment des contingences, des contraintes terrestres. Alors, de même, l'environnement n'est pas une question nouvelle pour l'aéronautique, et c'est là où c'est important aussi de revenir vers l'histoire, parce que cette question, elle est même présente depuis son origine, ne serait-ce que parce que, par exemple, l'histoire des avancées aériennes peut aussi se lire au travers des défis d'exploration de l'espace, de distances vierges, auxquelles vont être confrontés les aviateurs, qu'il s'agisse de Lindbergh ou de Coste et Bellonte qui traversent l'Atlantique, de Mermoz avec l'aéropostale de la TECOER qui va relier Toulouse à Dakar, puis ensuite qui va franchir la cordillère des Andes. Donc il y a toujours cette idée, effectivement, d'aller plus loin, hein, ou encore des aéronautes norvégiens, des aviateurs norvégiens, pardon, qui vont explorer les régions polaires et qui vont cartographier, en fait, ainsi les terres antarctiques et arctiques. Alors, avec cette découverte donc de nouvelles terres, hein, notamment par le média aérien, on élargit aussi les limites de la Terre, on comprend aussi autrement les interdépendances de notre environnement. Mais d'autres aspects, effectivement, sont à l'œuvre dans cet imaginaire tragiquement positif. D'abord, l'épreuve du risque, qui évidemment est omniprésente depuis le premier mort de l'aérostation, Pilâtre de Rosier, qui va inaugurer finalement une mythologie quasi religieuse de l'aéronaute, de l'aviateur, qui se sacrifie hein, avec les risques qu'il prend. Donc, nombre d'aviateurs, effectivement, vont périr, mais le pilote, effectivement, va quand même développer ses différents exploits, hein, franchissant seul face aux éléments. Donc, il y a une sorte de mythologie, un peu en tant que martyr, en tant que demi-dieu, en tant que sportif aussi, qui apparaît. En même temps, dans cette culture du dépassement, naît une dialectique donc, de l'héroïsme, hein, entre le sacrifice et l'exploit, qu'a réactivé l'épisode récent, en 2009, de cet avion new-yorkais qui a améri donc, sur le fleuve Hudson, alors qu'il était parti de l'aéroport de Newark, et que ses deux moteurs, étaient entravés par des oiseaux. Et tous les passagers, les 150 passagers, ont été sauvés par leur pilote, qui, je ne sais pas si vous avez vu ce film de Clint Eastwood, qui s'inscrit totalement, effectivement, dans la filmographie de Clint Eastwood, hein, ce cinéaste de l'héroïsme ordinaire américain, les pilotes qui, finalement, ont fait un choix d'amerrir, effectivement, sur l'Hudson, plutôt que de suivre les consignes de la tour de contrôle de l'aéroport de Newark, qui les invitait à regagner l'aéroport, pensant qu'il y avait suffisamment de temps parce qu'il s'appuyait, effectivement, sur les chiffres des calculateurs. Donc le film est intéressant aussi sur cette question du risque, hein, le risque pris par l'homme ou le risque effectivement calculé par des machines. Après, il y a la question des sociétés d'assurance qui rentrent en ligne de compte. Mais on a vu, et notamment on a vu au travers des articles de presse, hein, puis de la manière effectivement dont aux États-Unis les pilotes ont été salués, que effectivement cette question de l'héroïsme du pilote qui sauve ses passagers, qui maîtrise la machine tout seul, est réapparue. Deuxième point, cette question effectivement des atteintes, ou plus généralement d'un certain pouvoir effectivement d'anéantissement ou de destruction inhérent à cette invention, hein, les liens nous, aviation civile et militaire, sont très étroits. On le voit ne serait-ce qu'au travers de l'histoire et des jalons, notamment de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, de la Guerre froide, où à chaque fois, il y a eu effectivement des accélérations notoires effectivement, sur le déploiement du système aéronautique. Donc cette relation effectivement de l'homme à l'aviation, elle va avoir son revers avec ce pouvoir de destruction qui inaugure les bombardements tragiques, hein, de la Deuxième Guerre mondiale, de Guernica et Hiroshima, qui vont faire des centaines de milliers de morts, avec cette dialectique, finalement, de la paix et de la guerre. Mais on peut aussi observer, effectivement, ce pouvoir d'annihilation au travers, effectivement, des différentes nuisances qui constituent un autre volet des interférences de l'aéronautique avec l'environnement, des nuisances locales, bien sûr, sonores, respiratoires, spatiales, qui, dès le tournant des années 60, vont amener les riverains de l'aéroport d'Orly à manifester contre la présence de l'aéroport et a obtenu en 1968 le couvre-feu pour retrouver la tranquillité de leur vie quotidienne, ou des nuisances mondiales d'un transport qui, effectivement, recourt aux énergies fossiles, avec, effectivement, des effets sur l'émission de gaz à effet de serre importantes. En bas à droite, j'y reviendrai à un autre endroit, c'est une photographie donc, de l'occupation en fait, du site de Narita à Tokyo, donc à 70 km de Tokyo, qui va être occupé notamment pendant plusieurs années par les paysans expropriés par le gouvernement japonais pour construire le nouvel aéroport de Tokyo, donc dans le contexte post-Jeux olympiques, notamment de Tokyo, avec une contestation assez forte en fait, des populations par rapport effectivement à cette modernisation faite à marche avancée. Contestation, donc on est aux alentours des années 70, hein, donc ça fait déjà un certain temps, qui va conduire à des affrontements violents et qui vont notamment conduire à une dizaine de morts. Donc on voit que là aussi, ces conflits, en fait, au travers de l'usage du sol et au travers de la captation, en fait, d'un bien commun pour des méga équipements territoriaux, n'est pas nouvelle. Et puis, troisième élément qui montre là aussi les effets des retournements de cette invention, c'est ce principe selon lequel, effectivement, un transport va être inventé, initié et au début, d'une certaine façon, réservé à une élite. Alors, soit une élite sportive, comme les aviateurs, soit une élite du point de vue des moyens financiers. Tout le monde ne va pas pouvoir s'offrir la voiture autonome. Voilà. Et en même temps, avec une massification qui s'annonce ensuite, c'est ce qui explique, entre autres choses, le retournement de représentations relatif à la réception du périphérique parisien. Je fais une parenthèse, périphérique parisien qui s'initie en 57, dont la construction s'engage en 1960, qui s'achève en 1973. Évidemment, en l'espace de ces 16-17 ans, l'automobile est passé d'un bien de luxe plutôt recherché à un bien massif, ce qui fait d'ailleurs que le périphérique est saturé avant même d'être terminé. Donc évidemment, les représentations ne sont pas de même nature. On trouve évidemment la même chose sur la question de l'aviation, sauf qu'effectivement, on n'est pas sur les mêmes temporalités. Jusqu'aux années 70-80, c'est encore un mode de transport réservé à une élite, ou en tout cas, certains effectivement ont plutôt envie de prendre l'avion. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les terrasses d'Orly vont être aussi plébiscitées. Hein. En 1961, l'aérogare d'Orly est visitée par 4 millions de visiteurs, donc chaque année. Il y a plus de visiteurs qui viennent à Orly que de passagers qui viennent pour prendre l'avion. Bon, évidemment, c'est une chose qui nous paraît un petit peu étonnante aujourd'hui, dans la mesure où, au contraire, c'est un transport massifié qui n'est pas démocratisé. Il y a des tas de gens qui n'ont pas pris l'avion, mais qui explique aussi, à un moment, le retournement de représentation par rapport à un transport qui, effectivement, est jugé beaucoup moins agréable, beaucoup moins confortable et qui, par ailleurs, effectivement, a des effets sur l'environnement. Donc cette question effectivement d'élite, de l'élite versus la massification, elle rejoint aussi ce que Ivan Illich décrivait dans notamment un ouvrage qui s'appelle Énergie et équité, donc en 1972, sur notamment la théorie de la contre-productivité des inventions, c'est-à-dire où à un moment effectivement les fins qui étaient effectivement définies par rapport à une invention comme l'aviation, par exemple, de se déplacer, de permettre effectivement de voyager, peuvent être contrecarrées par les moyens où effectivement l'objectif aujourd'hui, c'est de développer le plus possible l'économie aérienne, le transport aérien et d'entretenir finalement une économie dont parfois on peut difficilement effectivement voir l'intérêt des finalités. 72, Illich, c'est aussi l'année de la publication de l'ouvrage du Club de Rome, notamment piloté par Denis Meadows, « The Limits to Growth », donc les limites de la croissance, qui déjà, effectivement, pointe l'incohérence des trajectoires de croissance technologique, économique, productiviste, par rapport, effectivement, aux capacités de la Terre, ouvrage qu'il a réactualisé récemment, sans être pour autant plus optimiste qu'avant, vous l'imaginez. Donc cette massification du transport aérien, elle a été aussi stimulée par l'existence de dans ce que j'ai appelé le macro-système aéronautique, constitué par des constructeurs, par des transporteurs, par des exploitants d'infrastructures, et qui peut expliquer aussi les divergences finalement d'acceptation de cette économie et les conflits en fait qu'on peut voir à l'œuvre. Alors j'ai cité tout à l'heure le cas du Japon, hein, donc dans les années 70. Même avant, dans les années 60, existait un certain nombre de contestations, notamment à New York, dans le contexte de la création d'un nouvel aéroport dans des zones humides, donc où effectivement un certain nombre d'associations se mobilisent donc pour éviter qu'effectivement ces zones ne soient préemptées par la construction de cet aéroport. Ceci s'explique aussi par le fait que l'aviation s'est développée plus tôt aux États-Unis, donc que le transport aussi s'est développé plus tôt. Donc on retrouve effectivement ce retournement par rapport à une massification qui du coup effectivement déséquilibre un certain nombre de facteurs. Mais on peut évidemment expliquer aussi les contestations d'aujourd'hui, alors pas seulement par le développement de l'aviation, c'est aussi des symboles effectivement qui sont pris et qui sont considérés par rapport à toute une série de questions contemporaines. Alors, deuxième objet, c'est celui qui consiste à analyser effectivement sur le temps long, là aussi, la façon dont la culture aérienne a marquer ces empreintes sur le milieu, cette anthropisation du milieu qui se traduit de manière différente, de manière positive, de manière moins positive, hein, et que l'on peut approcher aussi selon plusieurs aspects. Alors, le premier, c'est celui des frontières, hein, et notamment des rapports entre centre et périphérie. Je montre ces trois images, donc, qui datent des années 30. On est donc en Scandinavie, notamment en Norvège, où effectivement l'aviation va être prise très très au sérieux et va être développée parce que finalement elle permet à un pays plutôt excentré par rapport au centre de l'Europe, avec des côtes très montagneuses aussi, et donc avec une géographie très très particulière, hein, insulaire aussi, elle va permettre effectivement à ce pays d'une certaine façon d'échapper à l'enclavement et de se resituer au centre de l'espace, et de l'espace européen notamment, par le biais effectivement de l'aviation, la création de SAS, donc de la compagnie Scandinavian Airlines, va contribuer aussi à renforcer effectivement ce lien des pays scandinaves avec le centre de l'Europe, et on aura effectivement dans l'entre-deux-guerres toute une création de routes aériennes qui va favoriser effectivement les lignes côtières avec le recours aussi aux hydravions. On voit dans la page du centre effectivement le plan des routes aériennes, des lignes aériennes qui est dense, comme vous le voyez sur cette carte. Alors, de même, on peut voir cette question des frontières, de leur dépassement finalement ou de leur reconfiguration à travers l'émergence effectivement des trois grands pouvoirs qui constituent finalement économiques, hein, qui constituent le macro-système aéronautique. Les compagnies aériennes, bien sûr, qui sont devenues d'une certaine façon des ambassadeurs de leur nation. Hein, quand une compagnie aérienne fait faillite, il y a eu quelques exemples, hein, en Belgique, etc., c'est tout de suite un drame parce qu'effectivement, c'est aussi la représentation de la nation ailleurs. En même temps, ces compagnies aériennes, elles ont fait l'objet d'alliances, hein, donc Air France KLM, mais SkyTeam et puis Star Alliance, etc., qui reconfigurent finalement ces pouvoirs, ces conglomérats aériens à des échelles qui transcendent effectivement les échelles nationales. De même, si l'on pense aux conglomérats aéronautiques, qu'il s'agisse d'Airbus ou de Boeing, on voit la carte à droite qui date de 85, qui montre en fait les différents lieux de construction des pièces des Airbus et donc en quoi effectivement la constitution effectivement du groupement Airbus consolide aussi la fabrication de méga objets effectivement à l'échelle européenne et nourrit cela. Puis on voit bien dans les débats, dans les conflits, dans les concurrences économiques entre Boeing et Airbus combien effectivement aussi ça renforce l'identité nationale européenne versus américaine et en même temps ça la transcende. On peut citer aussi la question des aéroports, bien sûr, qui sont des emblèmes, on le verra, métropolitains, nationaux. À travers les aéroports, c'est aussi l'image d'un pays qui se développe. Mais les autorités aéroportuaires se constituent aussi en groupes aéroportuaires, exploitent des aéroports hors de leur territoire national. Donc on voit là aussi cette identité nationale qui est incarnée par les groupes aéroportuaires, aériens ou aéronautiques, et en même temps le fait qu'effectivement ce sont des groupes qui travaillent, qui exercent à l'échelle du monde entier. Deuxième aspect, deuxième dimension possible de cette question effectivement de l'impact de l'économie aérienne finalement sur nos milieux, c'est celle relative aux spatialités. En commençant par la question du voyage, finalement, qui a considérablement évolué à travers la pratique aérienne, déjà par l'usage même de l'avion, qui effectivement contracte, réduit les distances, d'où effectivement aujourd'hui parfois un retour à des déplacements plus lents, hein, à une façon effectivement d'apprécier la lenteur, qui est contradictoire effectivement avec cette grande vitesse, mais aussi avec le fait qu'effectivement le voyage aérien a complètement changé de statut, de nature, par rapport à ce qu'il était effectivement il y a 50, 60 dernières années, où par exemple le séjour dans l'aéroport n'était pas du tout du même acabit que celui qu'on peut avoir aujourd'hui, où on est conduit d'enclos en enclos par l'effet de la sûreté, par l'effet des files d'attente, par la captation par les commerces, etc. Ce qui fait dire d'ailleurs à l'écrivain Jean Echenoz que d'une certaine façon, le voyage aérien ou le déplacement aérien est un déplacement sans voyage, c'est-à-dire a-t-on l'impression effectivement de voyager, au sens où les écrivains voyageurs nous racontent effectivement leur récit lorsque l'on prend l'avion, avec aussi cet effet effectivement sur la perception du voyage aérien où finalement le déplacement est constitué de moments de lenteur, voire d'attente, hein, qu'il s'agisse de l'attente dans l'aéroport, de l'attente dans l'avion, on est coincé effectivement sur notre petit siège, et puis en même temps d'accélération qu'on ne perçoit pas forcément, accélération par le fait même qu'effectivement on peut franchir en l'espace de quelques heures des distances qui sont considérables, mais qu'on ne perçoit pas parce qu'effectivement on est dans une sorte d'immobilité. Donc cet effet effectivement qui évidemment est accentué par la grande vitesse aérienne, mais qu'il est aussi par la grande vitesse ferroviaire. Le maglev, par exemple, ce transport à sustentation magnétique qui relie l'aéroport de Shanghai au centre de Shanghai, donc qui est un transport qui va à une vitesse de 300 ou 400 km/h, on est assis effectivement immobile dans un train. Et en fait, sur un écran, on voit la croissance de la vitesse à laquelle se déplace ce train, avec ce sentiment très contradictoire d'être immobile et de voir en même temps la vitesse énorme, immense, à laquelle on circule. Un second paradoxe, donc spatial finalement, qui est relatif à cet espace aérien, touche à la question des infrastructures qui sont de plus en plus monumentales. On le voit à droite avec une vue aérienne qui donne une quinzaine d'années de Roissy 2, donc avec la gare TGV au premier plan surmontée par l'hôtel et puis au-delà effectivement des aérogares de Roissy 2, donc des infrastructures qui sont de plus en plus monumentales, qui sont à l'échelle de villes en termes de territoire. Si on prend l'espace de Roissy, c'est 3000 hectares, donc c'est un tiers de Paris intramuros. Et en même temps, effectivement, ce sentiment que c'est un mode de transport qui doit nous permettre de nous affranchir du sol, donc d'avoir une certaine dématérialisation qui contraste effectivement avec l'emprise très très importante de ces infrastructures. Dans ces espaces, dans ces aéroports, il y a des lieux qui sont internationalisés, qui sont clôturés, qui sont hors sol d'une certaine façon, avec une certaine extraterritorialité, qu'on constate aussi à l'échelle des villes, puisque effectivement, on le verra, l'aéroport est à la fois hors de la ville, de par ses nuisances, de par sa taille, de par son caractère très très imposant, et puis en même temps, il ne peut exister sans la ville qu'il dessert, ne serait-ce que parce qu'effectivement, il y a une desserte aussi qui existe, toute une série d'implantations qui peuvent se développer autour de l'aéroport et qui fait que du coup, il est aussi en ville. Donc, cette extraterritorialité et puis en même temps ce rattachement à la ville provoque aussi un certain nombre de paradoxes, de contradictions qu'il faut prendre en compte lorsque l'on analyse ces questions à l'échelle urbaine notamment. Alors, on pourrait en citer d'autres qui ne touchent pas forcément à la question des infrastructures, mais par exemple, si on prend la question de la technologie des drones, qui permet effectivement de faire toute une série de choses, qui renoue effectivement avec cette idée de vision finalement totalisante de l'espace. Ça, c'est un extrait d'un film qu'on peut trouver sur YouTube de Liam Yang, qui est un architecte qui s'appelle In the Robot Skies, qui est entièrement tourné avec des drones, et qui en fait, donc c'est une fiction autour de deux jeunes qui effectivement vont essayer de dénouer la surveillance généralisée en fait par les drones pour s'envoyer des drones customisés avec un certain nombre de messages. Et donc, qui en fait, effectivement, c'est un film de 6-7 minutes, hein, qui effectivement identifie cette dualité entre vision à la fois totalisante et puis vision totalitaire, hein, au travers notamment de la surveillance. Alors, à travers tous ces éléments, comment finalement rendre visible l'emprise du vol? J'ai oublié son nom, mais vous avez un site internet notamment qui identifie en fait, donc en matérialisant sous la forme d'une carte, tous les vols qui sont en cours de déplacement dans le ciel à un instant donné, donc qui montrent effectivement que les ciels sont plus ou moins fournis selon qu'on se situe au nord ou au sud, ou comme cette carte effectivement qui montre donc de 2009, qui montre en fait les routes du trafic mondial aérien, hein, avec là aussi des différences entre la partie nord et la partie sud, mais enfin qui montre quand même la densité effectivement de ces routes aériennes. Donc comment rendre visible l'emprise du vol, hein, et notamment l'emprise de ce macrosystème, hein, constitué par l'industrie aéronautique, par la superstructure aéroportuaire et par le transport de masse qui est devenu le transport aérien. Alors, on peut la rendre visible effectivement sous l'aspect de cartes, sous l'aspect effectivement de représentations comme celle de cet artiste coréen qui s'est placé à l'aéroport de Hanovre et a photographié pendant toute une journée en fait tous les vols au départ de l'aéroport, et puis il les a superposés dans ce photomontage que vous voyez en haut à droite, qui montre qu'effectivement il y a quand même une fréquentation du ciel assez importante, en tout cas sur le temps. Rendre visible l'emprise du vol, c'est aussi rendre visible effectivement l'emprise de ces infrastructures, ce qui montre qu'effectivement, là aussi, cette anthropisation n'est pas du tout négligeable lorsque l'on voit effectivement les différents pouvoirs extraterritoriaux qui se sont développés. Mais une façon aussi de rendre visible l'emprise du vol, c'est d'éclairer un certain nombre d'impensés, et d'éclairer notamment à travers l'histoire. Impensés au travers, par exemple, de la figure effectivement des pilotes, de la figure héroïque qui reste quand même toujours assez prégnante, et où le modèle de la femme finalement est un petit peu écarté. Alors qu'en même temps, dans les années 20, on avait quand même un certain nombre d'héroïnes aussi aviatrices importantes, mais qu'elles se sont un petit peu éclipsées. Donc, se poser la question effectivement de cette masculinité assez affirmée. Un autre aspect, c'est la dépendance par rapport à la machine, où l'homme finalement apparaît à la fois comme un possesseur de la machine qui peut reprendre le contrôle, comme Sully en 2009 sur le fleuve de l'Hudson, et en même temps son instrument avec l'automatisation du vol, du pilotage, la standardisation des procédures qui finalement contribue à nuancer les valeurs de liberté, de maîtrise que portait l'imaginaire effectivement du pilote aux commandes de sa machine. Et puis, troisième impensé, qu'on peut aussi travailler sur la perspective de l'histoire, avec cette prégnance finalement des gagnants, des États, des armées, des compagnies, des conglomérats, des élites, etc. Mais à chaque moment de l'histoire, effectivement, apparaissent aussi des perplexes, des résistants, des perdants, ceux qui ne veulent pas forcément être desservis par des routes aériennes, ceux qui veulent retrouver la durée, ceux qui veulent l'isolement, ou ceux qui effectivement veulent conserver d'autres biens communs. Donc c'est aussi à ça que sert l'histoire, à rééclairer en fait ces impensés pour relire aussi ces perspectives d'une autre façon. Donc pour cette deuxième partie, dans laquelle je m'attacherai cette fois-ci à approcher cette question par l'infrastructure aérienne et ce que j'ai appelé les empreintes de l'infrastructure aérienne. Donc où là je propose effectivement d'aborder la relation entre l'aviation et le territoire. Sous l'angle de l'ensemble des supports architecturaux, urbains, territoriaux, donc les aéroports et les extensions, mais aussi les institutions, les pouvoirs économiques, en fait, notamment au travers des autorités aéroportuaires qui permettent la mobilité aérienne. Donc derrière cela, j'ai une acception de l'infrastructure qui est assez large, qui est à la fois matérielle, territoriale, mais aussi économique, sociale, institutionnelle, et puis aussi imaginaire, comme on le verra au travers des représentations successives qui ont projeté ces lieux. Alors, avant de faire ce petit panorama historique, je voudrais revenir au contraire sur des questions très contemporaines, en fait, sur les relations entre ville et aéroport. C'est un extrait d'un film que vous connaissez certainement, qui s'appelle Playtime, de Jacques Tati, qui commence à l'aéroport et qui se termine à l'aéroport, Jacques Tati n'ayant pas pu tourner à Orly, et donc ayant reconstitué, en fait, donc dans ses studios de Girouinville-le-Pont, l'aéroport d'Orly, ce qui d'ailleurs l'a ruiné, même si évidemment le film a eu beaucoup de succès, mais a posteriori. C'est le drame des grands artistes. Donc, pour revenir sur des questions contemporaines, la première, je dirais, c'est est-ce que l'aéroport est en ville ou est hors la ville ? Un peu les deux. Donc, on revient sur cette question d'extraterritorialité et en même temps d'appartenance, effectivement, à l'espace urbain. Ces deux images que je vous montre, donc la première, c'est une image réelle, une photographie de l'aéroport du Kansai à Osaka, avec l'aérogare qui fait à peu près 1700 mètres de long, donc qui, alors sans doute que le record a été dépassé depuis, on est encore dans l'idée des records, mais c'était l'aérogare la plus longue du monde à ce moment-là, donc qui est située sur une île artificielle à distance de la baie d'Osaka. Et puis à droite, c'est la même aérogare, hein, dessinée par Renzo Piano, qui est projeté ici sur Hyde Park. Donc, évidemment, il s'agit d'un photomontage. Les parcs londoniens sont plus grands que les parcs parisiens, mais on voit bien qu'effectivement, il y a un rapport de proportion entre la dimension de cet aérogare et l'un des lieux emblématiques, effectivement, d'une ville comme Londres, qui est très important et qui montre effectivement cet écart effectivement, des dimensions. Donc, l'aéroport est considéré effectivement comme un espace or les murs, physiquement, s'entend, de par ses nuisances, de par sa grande dimension territoriale, architecturale, de par la stérilisation d'un certain nombre d'espaces de clôture qui sont en son sein, de par la massification des flux aussi, et tout ceci, effectivement, amenant à prévoir, à planifier des plateformes aéroportuaires plutôt hors de l'espace urbain, parce qu'effectivement, elles ne peuvent pas forcément y trouver place. Ça n'a pas toujours été le cas, mais il est clair qu'effectivement, la massification du transport, le développement important du transport, ont conduit effectivement à repousser effectivement ces plateformes hors la ville. Hors une certaine ville, parce qu'en même temps, ces infrastructures, elles ne pourraient pas exister sans précisément la ville à laquelle elles appartiennent. Alors, ça a existé. Parfois, on a des aéroports qui sont situés à 200 km de certaines villes, comme Mirabel au Canada, ou comme cet aéroport espagnol qui est complètement vide, mais on voit bien qu'à un moment, ça a ses limites, puisqu'effectivement, un aéroport, ça fait circuler des passagers. Il y a 100 000 passagers par jour qui prennent l'avion à Roissy, à peu près le même nombre qui viennent travailler. Donc, c'est une forme de centralité périphérique qui est importante, effectivement, dans l'espace de nos métropoles. Donc, on a ces effets d'attraction, de répulsion, effectivement, qui sont propres à ces grandes infrastructures. Alors, de la même façon, effectivement, en ville ou hors la ville, l'aéroport témoigne effectivement d'un certain nombre de dépassements de limites, limites techniques, limites institutionnelles, hein, au travers des pouvoirs notamment qui en ont la gestion, limites techniques, limites conceptuelles, qui redéfinissent aussi les contours de la ville à côté de laquelle il se situe. Donc on voit cela, par exemple, dans l'extension du corridor, de ce que certains appellent le corridor effectivement urbain, depuis le Bourget jusqu'à Roissy, où on a comme ça tout un territoire qui s'étend, qui certes couvre effectivement deux aéroports, mais qui recouvre aussi d'autres espaces et qui montre que là aussi, les limites urbaines s'étendent de manière importante. Ça traduit, cela, les processus d'élasticité urbaine qui sont à l'œuvre dans les villes, qui se traduisent d'une part par une distension des villes, traduite par l'étalement urbain, par le polycentrisme, par la diffusion urbaine, et qui procède de l'augmentation des vitesses de déplacement, par les métros, par l'automobile, par des infrastructures de plus en plus performantes, et qui montre qu'effectivement les aéroports se sont déplacés depuis le Bourget, qui était à 4 km du centre, enfin des portes de la ville, à Orly, qui est à peu près à 10-15 km, puis Roissy. On a parlé à un moment du troisième aéroport parisien qui devait être à Beauvais, donc avec toujours cette idée effectivement de repousser plus loin l'implantation de l'aéroport, parce qu'effectivement les limites de la ville s'étendaient en même temps beaucoup plus loin. Donc cette distension des villes et puis en même temps cette intensification des villes autour de méga-équipements de transport. Alors on appelle ça des hubs pour l'aérien, c'est-à-dire l'idée effectivement de faire se correspondre un certain nombre de routes aériennes, de rendez-vous aériens, mais au travers du hub aérien, c'est aussi l'agrégation d'autres vitesses, d'autres équipements de transport, la gare TGV, bien sûr les équipements de RER, bientôt le Grand Paris Express. Et puis, avec ces modes de transport qui rendent du coup les aéroports très très bien desservis, hein, évidemment ce sont des lieux parmi les mieux desservis de la région parisienne, d'autres usages s'agrègent, des usages commerciaux bien entendu, des usages hôteliers, des usages de bureaux, etc. Ce qui constitue effectivement ces aéroports comme des plateformes importantes où s'intègrent effectivement des fonctions, des process, des usages dans des lieux qui du coup sont de plus en plus grands. Donc on a effectivement cette notion de centralité périphérique, c'est-à-dire qu'à la fois effectivement ce sont des lieux qui sont en périphérie, en satellite des villes, et puis en même temps qui appartiennent à l'espace métropolitain, à l'espace régional et qui constituent même des lieux très très importants en matière de desserte, en matière d'usage, en matière d'emploi, etc. Deuxième question, c'est cette compression de l'espace-temps, alors qui n'est pas uniquement permise par la mobilité aérienne dans les airs, mais qu'on peut constater aussi au sol, notamment à travers de la question de la desserte des aéroports, question qui revient de manière récurrente et qui appartient aussi à l'histoire. Quand on voit les débats qui ont eu lieu autour des années 30 sur la desserte de l'aéroport du Bourget, qui devait donc être rénové à l'occasion de la future exposition de 37. Alors à l'époque, il y a eu un débat en fait sur les implantations. On pensait au Bourget, mais d'autres militaient pour qu'il y ait notamment un port aérien intercontinental autour de la ville de Trappes, qui n'était pas encore, bien sûr, partie prenante de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines. La ville nouvelle, ça, c'est beaucoup plus tard. Et où tout un débat aussi s'est focalisé sur les liaisons, en fait, de la ville à l'aéroport. Avec certains qui militaient donc pour l'implantation de l'aéroport donc dans l'ouest parisien, en montrant qu'effectivement, la voie qui relierait l'aéroport à la ville serait de bien plus belle facture, puisqu'elle permettrait effectivement d'offrir aux visiteurs étrangers les beaux paysages de l'ouest parisien, depuis Saint-Germain jusqu'à l'accès parisien, alors que le Bourget, situé au nord, présentait aux yeux de ses édiles effectivement un paysage beaucoup moins favorisé, industriel, etc. Ce que certains ont détourné en disant qu'il suffisait effectivement de faire une belle voie plantée d'arbres pour cacher, ça c'est moi qui le dis, cette banlieue que je ne saurais voir. Donc on voit déjà effectivement ce débat sur la desserte ville-aéroport. Alors là, qu'est-ce qu'on décrit, qu'est-ce qu'on montre de la ville au travers effectivement de cette porte d'entrée aérienne, ou comment on saute, comment on fait abstraction de la ville, notamment par la grande vitesse. Donc ça, c'est la question du maglev, par exemple, à Shanghai, 400 km/h, ce qui paraît un petit peu incohérent en même temps pour un transport urbain, métropolitain, où effectivement, il s'agit de comprimer cette distance qui est nécessaire effectivement par l'excentrement de la plateforme hors la ville avec un transport qui va relier directement l'aéroport à la ville. Ce débat, on le retrouve d'une certaine façon autour du CDG Express aussi, projet qui date maintenant d'un certain nombre d'années et qui viserait effectivement à relier directement Roissy à la gare de l'Est en souterrain, avec là aussi un certain nombre de controverses entre les différentes collectivités, entre ceux qui seraient partisans effectivement d'utiliser ce nouveau transport, peut-être pour améliorer la desserte en RER, notamment par le RERB. À Hong Kong aussi, on a cette image, les étudiants d'Amur la connaissent bien, parce que je la sens assez régulièrement. On a aussi effectivement ce transport métro donc, qui relie l'aéroport excentré, donc à peu près à 30 km du centre de la ville, au centre de la ville. avec ce slogan qui apparaît, l'aéroport n'est qu'à 23 minutes en fait de la ville. Sous-entendu, effectivement, le fait qu'il soit loin n'est pas forcément pénalisant, puisque vous pouvez effectivement en 23 minutes rallier le centre de la ville. Alors évidemment, on ne rallie pas le centre de la ville en 23 minutes lorsqu'on atterrit à Chek Lap Pok, donc l'aéroport de Hong Kong, ne serait-ce que parce qu'effectivement il y a beaucoup de distance à pied, parce qu'effectivement il faut trouver son chemin, parce qu'une fois arrivé à la gare au centre de la ville, eh bien, ensuite il faut rallier effectivement sa résidence. Donc cette idée effectivement de la compression de l'espace-temps qui se traduirait par une distance comme 23 minutes est aussi une forme de mirage. Et j'aime bien montrer ce panneau publicitaire, promotionnel de la nouvelle ligne de métro qui masquait donc l'ensemble du chantier de la ligne de métro, parce qu'il montre en une image finalement une succession de trois vues. La manière dont les distances de temps et les distances kilométriques, finalement, spatiales, sont un petit peu perturbées par ces infrastructures de vitesse. Donc l'aéroport a été déplacé au tournant des années 97-98, et notamment au moment de la rétrocession de l'ancienne colonie britannique à la Chine populaire. Auparavant, il était plutôt au centre de la ville, donc avec toutes les nuisances et les dangers que cela pouvait provoquer. Et il a été déplacé, donc avec une plateforme qui a été créée, mais avec la plateforme a été réalisée concomitamment, donc simultanément, cette ligne de métro. Donc on voit au milieu, avec ce métro qui flotte un peu dans les airs, et qui a relié directement donc la plateforme aéroportuaire au centre de la ville, avec la création au centre de la ville de ce qu'ils ont appelé une aérogare in-town, c'est-à-dire une gare qui accueille ce métro, mais qui permet aussi de faire l'enregistrement de ses bagages en ville, et donc de finalement procéder à toutes les formalités de l'enregistrement en ville avant de rejoindre à ce moment-là la plateforme excentrée. Donc là, l'aéroport, c'est pas uniquement la plateforme excentrée, c'est l'ensemble du dispositif constitué par l'aéroport, par la ligne de métro et par l'aérogare in-town qui, du coup, reconfigure un petit peu ses contours. Avec des effets d'inversion, c'est-à-dire que la photo à droite est-elle prise dans un aéroport? On pourrait le croire. Objectivement, on a les codes, on a effectivement les référentiels. Non, elle est prise dans une gare au centre de la ville, la gare de Kowloon, où était construite aussi une très très grande gare TGV qui permet qui permet la ligne TGV en fait de Hong Kong à Canton, ça c'est une autre question, et qui du coup reprend aussi un certain nombre de codes aéroportuaires avec ses effets du coup d'aéroportuarisation, c'est-à-dire effectivement de lieux qui sont en ville qui ont toute une série de codes en fait aéroportuaires. Par leur dimension, par leur écriture architecturale, par la manière dont ils fonctionnent, par les usages, etc. Et puis en même temps, une volonté d'urbaniser l'aéroport aussi, en agrégeant un certain nombre d'usages urbains, en important aussi un certain nombre d'espaces qui, a priori, auraient plutôt été en ville, donc avec ces effets de confusion ou d'hybridation qu'on peut constater dans ces espaces. Et puis, dernière question, mais il y en a d'autres encore, c'est ce rapport très très spécifique au temps qu'on constate au travers de ces infrastructures, parce que, je l'ai montré, c'est vrai que sur 120 ans, on a une croissance du transport aérien qui a été assez importante. On pourrait faire la même histoire, sans doute, à travers l'automobile ou même à travers le numérique, même si l'histoire, évidemment, est loin d'être terminée pour tous ces usages. Mais finalement, en l'espace d'un siècle, c'est un transport qui a quand même considérablement évolué. Et du coup, l'infrastructure aéroportuaire a aussi considérablement évolué, comme on va le voir dans ce qui suit, avec du coup des questions relatives à ces équipements qui sont censés effectivement accueillir le transport aérien, mais qui souffrent d'une sorte d'obsolescence permanente, parce qu'effectivement, ils doivent s'adapter aux fluctuations du transport aérien, aux évolutions, à la croissance, etc. Ce qui fait qu'effectivement, les concepteurs d'aéroports ont toujours été confrontés à cette question-là, alors même qu'ils voulaient aussi en faire des équipements pérennes, des équipements durables, des équipements intégrés à la ville. Et c'est ce qu'on a constaté, notamment, par exemple, à travers l'étude de l'aéroport d'Idlewild à New York, qui est venu donc l'aéroport JFK, John Fitzgerald Kennedy, après la mort du président américain, où, à l'occasion du tournant des années 2001-2002, donc après les attentats du World Trade Center, où il y a un certain nombre de soubresauts, notamment des compagnies aériennes qui ont fait faillite, comme TWA, et puis la volonté, effectivement, de renouveler encore la plateforme aéroportuaire, l'autorité aéroportuaire, la Port Authority, voulait détruire un certain nombre de lieux de l'aéroport pour agrandir l'aéroport, pour le moderniser, etc., et notamment détruire un certain nombre d'aérogares qui avaient été construites dans les années 60, comme celle du terminal TWA de Saarinen, ce qui a donné lieu à ce moment-là à toute une série de contestations de la part des associations pour conserver, en fait, et garder ce qu'ils appelaient finalement un patrimoine aéroportuaire, donc cette notion de patrimoine qui s'invite effectivement dans des lieux qui pourtant ont sans cesse été conçus par rapport au futur. Donc ce rapport entre modernité, obsolescence, patrimoine, au travers de lieux qui à la fois sont des équipements, mais en même temps qui effectivement doivent s'ancrer dans la ville, on peut le trouver ailleurs, hein, sur le patrimoine industriel, ou sur le patrimoine des gares, mais de manière peut-être moins affinée. Mais en tout cas, il pose la question effectivement d'équipements qui sont construits, qui sont réalisés par rapport à des besoins techniques, par rapport à des besoins de flux, par rapport aussi à une certaine image de la modernité, et qui en même temps s'ancrent dans la durée, parce que ce sont des équipements qui mettent du temps effectivement à se construire, qui font partie de l'espace urbain, et donc qui doivent résister de fait un certain décalage par rapport au temps, à un certain nombre de désynchronisations. Et ça, c'est quelque chose qui est inhérent effectivement aux grandes infrastructures de transport, qui sont à la fois des objets urbains et en même temps effectivement des objets qui doivent satisfaire un certain nombre de besoins, notamment de besoins techniques. Alors, on voit, c'est un objet donc très particulier, un objet moderne, un objet urbain en même temps. Donc, pour comprendre un petit peu les relations que les aéroports nouent avec l'urbain, la façon dont ils s'insèrent, dont ils vont transformer en même temps l'urbain, je vous propose, en un temps assez court finalement, de revenir à l'histoire de ces aéroports à travers une lentille particulière, c'est-à-dire à travers la manière dont la création des aéroports finalement a noué des liens avec l'espace urbain et notamment avec l'espace de leur ville. Et c'est pour ça que je m'attacherai ici à retracer finalement cette histoire dans le contexte du Grand Paris, parce qu'effectivement, les aéroports ne se ressemblent pas. Bien sûr, on peut constater qu'il y a toute une série de codes, d'aménagements qui sont similaires les uns aux autres, mais quand on agrandit effectivement l'échelle, quand on regarde la stratification de ces aéroports, on s'aperçoit qu'effectivement, ils ont tous une particularité parce qu'ils se sont construits en relation avec la ville d'accostage qu'ils desservaient, et surtout parce que les acteurs, les concepteurs qui les ont construits, effectivement, étaient nourris, étaient pétris effectivement des questions qui se posaient. Alors, je le ferai en citant. Le premier temps, c'est à l'origine, finalement, à l'origine de l'invention de l'aviation mécanique. Bien sûr, on pense à des lieux, mais on pense à des lieux avant tout pour montrer l'invention. Donc des lieux qui vont permettre la tenue de meetings, permettre la tenue effectivement des exploits, et donc qui vont valoriser la dimension finalement spectaculaire, la dimension théâtrale, avec l'aménagement de tribunes, l'aménagement aussi de scènes autour desquelles effectivement on pourrait observer ces exploits. On balbutie aussi sur les termes à donner, donc là on est autour des années 1910, hein, avec des références théâtrales, comme le cirque, le parterre, la tribune, ou sportive, hein, l'aérodrome, hein, il y a cette idée de course, ou le lieu du meeting, ou encore portuaire ou ferroviaire, on parle alors de gare aérienne ou de port aérien. Donc le terme d'aéroport va venir beaucoup plus tard, mais évidemment il est dérivé de port aérien. On peut avoir en allemand Flugfeld ou Airfield, par exemple, en anglais ou aux États-Unis, avec cette notion de field, du champ, donc du terrain vierge finalement, où atterrissent les aéroports. Donc, où atterrissent les avions, pardon. Donc à ce moment-là, les aérodromes, ce sont des lieux où on va voir des exploits, aménagés du coup autour de tribunes, avec cette notion effectivement de spectacle, il s'agit de voir, hein, ce qu'on retrouvera plus tard dans les aéroports, avec cette idée de baie vitrée, de voir le tarmac, de mezzanine, de jeux d'entrelacement, effectivement, de couloirs et de passerelles. Et s'agissant effectivement de Paris, on est donc dans ces années 10, dans un débat qui est lié au contexte d'abord d'un fort accroissement démographique et puis surtout d'une interrogation aussi sur ce que vont devenir les dernières fortifications de Paris qui vont être déclassées et qui vont être démontées pour donner lieu effectivement à un espace important dont on ne sait pas quoi faire mais qui évidemment sera très important. Donc cette année 1910, elle marque un tournant à la fois du point de vue de l'aviation, parce qu'il y a des grands exploits qui se font, traversée de la Manche par Blériot notamment, la grande semaine de Bétheny dont on voit une photo à droite, et en même temps du point de vue urbain, parce qu'effectivement la ville s'interroge sur l'accroissement de son urbanisation, sur la manière dont elle pourrait effectivement aménager ce territoire des fortifications, hein, afin de pallier effectivement les questions urbaines qui se posent à l'ensemble de la région. Alors, donc on est dans une sorte de champ des possibles. Hein. L'aviation, c'est, comme vous le voyez, effectivement une pratique de sportif. En même temps, effectivement, avec un certain nombre de mécènes industriels qui vont être là, très fortement publicisés. C'est un lieu populaire de divertissement, effectivement, des badauds qui vont passer le week-end pour aller voir ses exploits. Et puis en même temps, on sent qu'effectivement, peut se développer un transport, mais tout est ouvert. Tout est ouvert. Donc ça donne lieu, effectivement, à un certain nombre d'anticipations, de fictions, dont les urbanistes aussi vont s'emparer, comme Eugène Hénard, par exemple, qui est architecte urbaniste à la ville de Paris, qui cite dans un article qu'il va présenter à la première conférence d'urbanisme à Londres les anticipations de Herbert George Wells, donc la guerre dans les airs, etc. Donc il va mélanger à la fois les emprunts fictionnels avec effectivement la réalité de l'urbanisation à venir en proposant effectivement ce qu'il appelle une vision des villes de l'avenir qui va fortement s'appuyer effectivement sur l'invention aérienne, puisqu'il propose effectivement des aéroplanes abeilles, donc c'est la photo, c'est la vue, c'est le dessin de droite, avec cette idée qu'un aéroplane abeille pourrait se poser sur la toiture terrasse d'un immeuble, et puis ensuite descendre par un ascenseur au sous-sol pour se ranger à côté de l'automobile. Bon, derrière cette vue, il y a des choses plus réelles à l'époque qui concernent la rue elle-même, hein, avec cette idée de superposition effectivement des différentes voies depuis le souterrain jusqu'à l'espace en superstructure. Et puis à droite, donc toujours le même dessin, enfin toujours un dessin qui effectivement illustre cet article et cette conférence qu'il va faire à Londres, donc devant un panel d'urbanistes, hein, et de town planners, avec cette vue des villes de l'avenir donc projetée sur Paris, avec en même temps un certain nombre d'icônes, notamment de tours qui sont empruntées à d'autres villes européennes, hein, Venise notamment, évidemment on trouve la tour Eiffel, et où il imagine effectivement la ville de Paris s'agrandissant dans sa région avec trois ceintures, donc le centre de la ville n'étant abordé que par les aéroplanes abeilles, puisque la mobilité aérienne joue un rôle dans cette vue, et puis plus il va s'étendre, donc déjà il a une réflexion finalement sur la ville qui s'étend au-delà du périmètre des fortifications, plus la ville pourrait être effectivement accessible par des mobilités aériennes de plus grande facture, donc avec une sorte de hiérarchie finalement de l'accès de la ville selon la capacité et selon les modèles de ces villes. Donc évidemment tout ceci appartient d'une certaine façon à de la fantasmagorie, peut être vu depuis 2020 comme quelque chose de totalement insensé ou imaginaire ou effectivement fantastique, mais il faut se resituer effectivement dans ce contexte-là où tout est possible et où évidemment la question des nuisances, de la massification, etc. ne se pose pas encore et surtout où les urbanistes finalement captent cette invention pour finalement argumenter un certain nombre de propositions de réforme qui, par ailleurs, effectivement, sont discutées en raison effectivement de l'accroissement démographique, spatial et des villes et de la nécessité effectivement de les réformer. Alors, de ce point de vue-là, effectivement, on va réfléchir au fur et à mesure aussi que l'aviation se développe, même si elle est encore réservée à peu, à un certain nombre de dispositifs, de possibilités effectivement d'accueillir l'avion en ville. Avec cette idée finalement que l'aéroport n'existe pas encore, c'est-à-dire que c'est l'avion sans aéroport, et donc comment l'avion effectivement atterrirait en ville directement. Alors évidemment, les urbanistes sont lucides, ils savent que les gros aéronefs ne pourraient pas forcément atterrir en ville. Donc Le Corbusier, par exemple, dans sa ville contemporaine de 3 millions d'habitants, va imaginer une plateforme au centre donc, de sa ville qui accueillerait des avions taxi, donc qui permettrait de rallier effectivement le centre de la ville des aéroports qui seraient plus excentrés. Ou le projet de l'URSA, André l'URSA, en 1932, qui va utiliser effectivement un espace situé non loin de la tour Eiffel, l'île aux Cygnes, donc qui a cette dimension très particulière longiligne, pour en faire une piste d'atterrissage, là aussi pour des petits avions qui ensuite se rangeraient en sous-sol, et la plateforme étant reliée par différents ponts qui notamment permettraient de rallier effectivement cette île aérienne à l'ensemble de Paris. Donc un certain nombre de réflexions qu'on trouve en France, qu'on trouve aux États-Unis, qu'on trouve en Italie, sur les façons possibles finalement d'accueillir l'avion en ville, étant entendu que beaucoup disent, mais si l'on veut profiter effectivement des attributs de cette mobilité aérienne, de rapidité, de facilité, etc., il faut évidemment qu'on puisse les accueillir en ville et ne pas avoir effectivement cette distance qui pénaliserait effectivement les gains obtenus par cette grande vitesse. Alors, peu à peu, effectivement, cette idée à la fois d'une plateforme qui serait proche de la ville, qui intégrerait un certain nombre d'attributs urbains et qui en même temps accueillerait la mobilité aérienne, fait son chemin, et va faire son chemin notamment au travers de la création des premiers aéroports institutionnels, monumentaux, qui vont effectivement se construire dans les années 30, alors, où encore une fois la mobilité aérienne est balbutiante, elle n'est réservée qu'à une petite élite. En même temps, on pressent qu'effectivement elle va se développer, les premières lignes régulières vont être créées, les compagnies aériennes sont créées, Air France est créée en 1933, par le regroupement d'un certain nombre de compagnies qui existent déjà. Et c'est à l'occasion effectivement de grands événements métropolitains que les premiers aéroports vont se créer, qu'il s'agisse de la refonte du Bourget, le Bourget existait déjà avant, c'est un aéroport militaire, la refonte du Bourget en 1937 pour l'exposition de 1937, ou la refonte de l'aéroport de Tempelhof à Berlin, alors dans un contexte tout autre, qui est le contexte du Troisième Reich, notamment à l'occasion du 750e anniversaire de la ville, avec, comme vous le voyez, effectivement, c'est une photo qui date de 1960, mais ça correspond effectivement à ce qui va être inauguré en 1937 également, une infrastructure totalement monumentale qui ne correspond bien évidemment pas au trafic très faible qui s'y trouve. On trouve notamment ce grand hangar. Et donc sur la photo à gauche, vous voyez un grand hangar légèrement curviligne qui est en fait un hangar qui couvre les avions, donc qui viennent se ranger sous ce hangar avec un porte-à-faux qui pourtant soutient effectivement une terrasse qui va accueillir les milliers de visiteurs qui pourront effectivement voir les avions à l'œuvre. Alors ça participe effectivement de la dimension très spectaculaire que le Troisième Reich effectivement veut donner à son pouvoir, mais veut donner aussi à son pouvoir à travers le pouvoir aéronautique. De la même façon, les aérogares qui sont là, donc cette aérogare elle existe toujours, elle a été fermée en 98, elle donne lieu d'ailleurs à toute une série de projets. Les aérogares sont des espaces qui sont immenses et on peut mettre en parallèle cela avec effectivement l'aéroport du Bourget qui est aussi donc inauguré en 1937 à Paris par le président de la République et qui dispose donc de cette grande aérogare longiligne où vous pouvez trouver effectivement un certain nombre de terrasses qu'on voit ici, et qui permettent aux visiteurs, aux badauds, notamment aux badauds parisiens, de venir voir les avions. Donc on est dans l'idée, effectivement, d'une sorte d'aérogare monumentale, publique aussi, qui va favoriser toute une série d'usages, usages pour effectivement aller voir les avions, mais usage aussi pour passer la journée effectivement à cet endroit, avec cette idée qui est explicitement exprimée dans le programme du concours en fait de cet aéroport du Bourget. Je cite la meilleure propagande. Hein, donc l'idée c'est la propagande, à resituer évidemment dans ce contexte, et d'attirer le public, de le retenir, de l'intéresser. C'est-à-dire que pour attirer les futurs utilisateurs du transport aérien, effectivement, rien ne vaut un lieu pour leur montrer à quoi il ressemble et pour leur montrer ce qu'est le transport aéronautique. Donc l'idée de l'aéroport, c'est aussi d'attirer effectivement les futurs chalands, les futurs passagers, les futurs voyageurs. Et de ce point de vue-là, effectivement, il est dit, l'aérogare de Paris doit jouer un rôle important en faveur du développement du transport aérien. Donc on est dans ce lieu qui est à la fois donc une porte d'entrée de la ville, un monument qui effectivement permet le déplacement aérien, mais qui permet aussi les visites, qui accueille déjà un certain nombre de commerces, presse, des bars, bientôt plus tard avec Orly, on aura des cinémas, etc. Et qui donc est effectivement un lieu qui a une certaine urbanité aux portes de Paris, avec effectivement les aménagements aussi des espaces extérieurs et les aménagements de la voie, donc qui va relier effectivement l'aéroport aux portes de Paris. Alors, ce développement donc de l'aéroport comme monument, comme porte d'entrée, comme emblème aussi, parce qu'évidemment, le fait que ces aéroports soient réalisés dans le cadre d'événements métropolitains traduit aussi l'idée que l'aéroport, c'est la porte d'entrée internationale, notamment pour les visiteurs étrangers, les visiteurs d'une exposition, ou par exemple à New York, avec LaGuardia, qui va être retravaillé, rénové à l'occasion de l'exposition de 39-40, l'exposition internationale, dans un contexte politique évidemment tout autre. On retrouve cette idée effectivement de l'emblème métropolitain et national tout récemment, ne serait-ce qu'avec effectivement des événements comme les Jeux Olympiques, qui du coup donnent lieu effectivement à création d'équipements aéroportuaires, parce qu'il faut accueillir pas mal de monde, qu'il s'agisse de Rio, d'Athènes, de Pékin ou d'autres villes. Cet aéroport, on voit aussi qu'il est plutôt fait pour les visiteurs que finalement pour les passagers. Et ceci va se poursuivre, notamment après la guerre, avec cette fois-ci la refonte effectivement d'un deuxième aéroport. Pourquoi? Parce qu'effectivement le Bourget est saturé, parce que le Bourget est très proche de la ville, donc pose des problèmes effectivement par rapport aux nuisances, par rapport aux extensions. Donc il faut s'agrandir et donc l'investissement va se porter sur un deuxième aéroport qui se situe à Orly, qui existait déjà avant, hein, un aéroport militaire, et donc qui va être là aussi rénové pour accueillir des trafics plus importants et accueillir les compagnies aériennes qui vont se déplacer du Bourget à Orly. Alors on retrouve là cette idée du monument, de l'emblème, là aussi, notamment au travers de la création d'Orly Sud, emblème architectural, mais plus encore même emblème urbain, c'est-à-dire qu'on est évidemment dans un changement d'échelle territoriale, mais aussi dans l'idée qu'effectivement, aussi dans le contexte de l'accroissement effectivement démographique et urbain, dans le contexte du démarrage effectivement d'un certain nombre de démarches de planification urbaine, avec le démarrage notamment du schéma directeur de la région parisienne qui va être initié par Delouvrier, et avec cette idée qu'effectivement l'aéroport peut aussi figurer une sorte de ville, ou une sorte d'idée de ville suburbaine avec ses bâtiments, mais pas seulement. On compare d'ailleurs, on compare effectivement ce qui va se créer avec des références urbaines, comme le montre cette publicité pour Aéroport de Paris, donc qui se décline au singulier à ce moment-là, et qui indique effectivement les dimensions des parkings, de l'aérogare, en regard effectivement de références parisiennes, comme la place de la Concorde, par exemple, comparée à la superficie des parkings. Ce sont des comparaisons qui sont un petit peu curieuses, qu'on peut aussi retrouver, par exemple, dans la figure de gauche, donc ces publicités apparaissant en fait dans les stations de métro parisiens, où on compare là aussi la distance entre l'Opéra et la Comédie-Française, avec la longueur de l'aérogare d'Orly Sud qui fait 400 mètres, avec aussi des représentations très très différentes, hein, une axonométrie à droite très moderne, et puis les représentations plus classiques évidemment du centre parisien. Cette idée des parallèles dimensionnels, elle va perdurer encore. Elle perturbe ne serait-ce que dans le parallèle que je vous montrais entre effectivement l'aérogare d'Osaka et Hyde Park, hein, c'est-à-dire se rendre compte en même temps effectivement de l'extra, enfin de la dimension extra-urbaine effectivement de ces lieux-là, qu'on ramène en même temps à des références urbaines, ne serait-ce que aussi par l'existence de ces publicités dans le métro parisien où on appelle à visiter l'aéroport de Paris, puisqu'effectivement l'aérogare d'Orly va devenir une attraction. Une attraction parce qu'effectivement elle incarne une sorte de modernité suburbaine, parce qu'elle donne à voir effectivement le transport aérien, donc s'inscrit effectivement dans cette longue histoire des meetings et de la fascination effectivement pour l'invention aérienne. Un chemin de ronde aussi va être aménagé autour de la plateforme d'Orly, donc on pourra faire le tour effectivement d'Orly à vélo, et puis bien sûr d'autres fonctions comme les commerces vont trouver place dans cet aérogare, des cinémas. Bon, de ce point de vue-là, d'ailleurs, on pourrait faire une histoire aussi d'Orly ou une histoire des aéroports à travers le film, hein, à travers le cinéma et à travers la manière dont ils l'ont projeté. Comme je vous le disais, effectivement, il y a plus de visiteurs qui viennent à Orly que de passagers, d'où le succès des terrasses, notamment. Et puis en même temps, on commence à percevoir qu'effectivement le transport aérien va se développer plus encore, pas se massifier, mais en tout cas va se développer plus encore, ce qui va du coup conduire effectivement à la réflexion sur le troisième aéroport parisien, donc Roissy, même si le Bourget, il était question effectivement de le fermer, il va quand même encore être ouvert, y compris effectivement à partir du moment où Roissy est ouvert, et où là, on assiste effectivement à un changement de conception, dans la mesure où là, on entre dans une période qui anticipe déjà le développement important du transport aérien, et donc qui va faire passer le transport de la figure du visiteur à la figure du passager. Alors Roissy s'inscrit complètement effectivement dans cette réflexion sur l'aménagement de la région parisienne à grande échelle. À gauche, vous voyez effectivement une figure qui est publiée dans Paris Match en 1967, dans un numéro qui s'appelle Paris en l'an 2000 ou Paris dans 20 ans, je pense que c'était plutôt Paris dans 20 ans, et qui publie en fait l'ensemble des projets qui se développent à ce moment-là dans le cadre effectivement de l'extension de la région parisienne, donc les villes nouvelles, la rénovation des Halles, Maine-Montparnasse, la Défense bien entendu, et aussi les équipements de transport, qu'il s'agisse du boulevard périphérique ou de l'aérogare de Roissy, dont on devine au nord le dessin. Donc Roissy s'inscrit dans ce contexte, il s'inscrit aussi délibérément hors de l'agglomération, donc à une distance très importante, hein, sur des terres agricoles, donc à distance, dans un contexte où l'État, en plus, a une forte compétence en urbanisme, donc peut maîtriser, en tout cas à ce moment-là, effectivement, l'urbanisation alentour, et avec une conception assez différente de celle d'Orly, pas de terrasse, hein, les visiteurs sont plutôt éloignés de la plateforme, on invente même des pièges à visiteurs, c'est-à-dire l'idée, effectivement, de créer des parkings éloignés pour les dissuader de venir à l'aéroport, donc pas de terrasse là encore une fois, et puis des aérogares qui favorisent plutôt effectivement la circulation des flux et ce voyage finalement à l'intérieur du terminal plutôt qu'effectivement le spectacle de l'avion. Il n'y aura pas de façade, de baie au travers de l'aérogare 1. Après, en revanche, effectivement, ça changera. Donc, je passe rapidement. Roissy, c'est Roissy 1, ensuite Roissy 2 qui se développe, etc. Pour arriver à la période contemporaine, hein, qui donc voit finalement l'aboutissement d'un transport qui, en l'espace de 30 ans, finalement, s'est massifié, donc a donné lieu effectivement à des plateformes de plus en plus conséquentes en termes de taille, hein, qui doivent s'adapter aussi, comme je le disais, effectivement, à ces processus de massification, qui doivent accueillir aussi d'autres fonctions, d'autres transports, comme le montre par exemple cette vue à gauche, qui montre un petit peu l'aspect chaotique des transports urbains devant l'aérogare d'Orly Sud, et puis qui voit aussi à l'œuvre un certain nombre de réflexions urbaines sur la manière de réintégrer ou de capitaliser ou effectivement de travailler sur l'aménagement de ces plateformes aéroportuaires. On parle aujourd'hui du Grand Orly, du Grand Roissy. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça signifie qu'effectivement il s'agit d'intégrer la réflexion sur le Grand Paris, enfin d'intégrer la réflexion sur l'intégration de ces plateformes aéroportuaires dans les réflexions sur le Grand Paris, et sous quelle forme? Là-dessus, on constate qu'il y a plusieurs types d'approches, plusieurs types de représentations. De ce point de vue-là, les travaux de la Consultation internationale du Grand Paris et ceux qui s'en sont suivis étaient très intéressants, parce qu'on voyait un scénario qui visait plutôt à réparer, c'est-à-dire à essayer de réintégrer effectivement ces plateformes dans l'espace urbain, ce qui n'est pas évident, donc à travailler sur les lisières, sur les clôtures, à essayer de minimiser effectivement leurs impacts, avoir une certaine économie finalement d'intervention, ou au contraire, je dirais, d'autres stratégies qui visent là à étendre finalement cet espace, à capitaliser finalement sur les dessertes, sur ces lieux effectivement d'équipement, en aménageant d'autres types de programmes. Donc, on a parlé d'Europa City, c'est ce qui est en bas qui a été effectivement remis en question, mais d'autres projets sont à l'œuvre, qui du coup se déploient, et c'est la carte qui est montrée à gauche, depuis le Bourget jusqu'à Roissy, visant finalement à étendre l'emprise de ces grands aéroports au-delà, effectivement, de leurs limites. Donc cette question du rapport de l'aéroport à la ville, elle évolue encore. Bien sûr, le trafic nécessite toujours, a priori, que les autorités aéroportuaires déploient plus d'infrastructures pour répondre à ces besoins, même si là, évidemment, ça trouve ses limites, et sans doute y aura-t-il effectivement des résistances par rapport à cela. Mais au-delà effectivement des aéroports, se déploient aussi d'autres projets qui effectivement environnent ces plateformes et qui soulèvent encore des questions sur la relation de l'aéroport à la ville. Alors, à l'issue de ce court panorama, si vous voulez des références qui vous permettraient d'approfondir, n'hésitez pas à m'en faire part. On peut se demander finalement ce qu'est un aéroport, comment le traduire, comment le caractériser. Ça, ce dessin, c'est un dessin qui a été fait par une agence Raum Labor, une agence berlinoise, sur l'usage possible, effectivement, de l'aéroport de Tempelhof, donc à Berlin, qui a été fermé donc en 2003, je crois, j'ai dû dire 98, mais c'est 2003. Suite à un référendum, parce qu'il est en plein cœur de la ville, et puis parce qu'effectivement un autre aéroport a été créé, qui a dû, d'ailleurs suscité un certain nombre de controverses. Et donc que faire finalement de ce lieu dont on voit la dimension vraiment encore une fois extra-urbaine, extraterritoriale, au cœur même de la ville, et qui en même temps a une particularité, a une histoire, comme souvent à Berlin, les lieux ont des histoires qui sont entrecroisées, entre le Reich, la guerre froide, etc. Et donc, cette agence a projeté un certain nombre d'usages, effectivement, qui faisaient suite à la fois à la manière dont le lieu était utilisé, puisqu'il était approprié différemment jusqu'à présent, sans encore donner lieu voilà, à des projets totalement définitifs, et puis qui faisaient suite aussi à un certain nombre de concertations. Donc, on voit là aussi la somme de représentations qui se projettent, effectivement, sur ce territoire en devenir. Mais ce que montre l'histoire, d'abord, c'est qu'effectivement, l'aéroport est un lieu de représentation qui se sont construites, effectivement, au fil de sa construction. D'abord, un lieu à fort imaginaire, qui se traduit notamment, effectivement, dans les différentes conceptions qui l'ont projeté. On parle d'imaginaire aéroportuaire. C'est un lieu de fiction aussi, qui a été travaillé notamment au travers du cinéma, au travers de l'art en particulier. Que c'est un instrument de réforme urbaine. J'en parlais à propos du lien entre les aéroports et les grands événements métropolitains, mais on peut parler aussi de l'aéroport comme équipement qui intervient au moment où s'engagent des réflexions de planification territoriale régionale. Et on peut lire l'histoire des aéroports de New York, l'histoire de l'aéroport de Hong Kong, l'histoire des aéroports parisiens en relation avec l'histoire des planifications régionales territoriales qui visaient à projeter aussi ces grands équipements. Un emblème de la ville, ou un emblème de la métropole, ou un emblème de la nation, un emblème qui peut être politique aussi, qui du coup va servir aussi de scène politique. Un pouvoir territorial, j'en ai peu parlé, mais bien entendu, ces aéroports sont gérés par des organismes, chambres de commerce pour les aéroports qui sont en région, en France, pas tous même, et à Paris, par une structure qui s'appelle Aéroport de Paris, qui est une autorité aéroportuaire qui a été créée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, et qui constitue un pouvoir territorial dans la mesure où, effectivement, ADP gère 7000 hectares effectivement, de plateformes, et donc dialogue aussi avec les collectivités territoriales sur l'usage de ces territoires, mais aussi sur la manière dont les limites, la riveraineté, effectivement, se déploie, et bien au-delà de la riveraineté, effectivement, les effets de cet aéroport sur son environnement. D'où le débat aussi autour de la privatisation de l'aéroport de Paris et cette idée des collectivités, notamment des départements et de la ville de Paris, de monter au créneau pour, pourquoi pas, effectivement, en acquérir une partie, parce que, effectivement, ces collectivités considèrent que les aéroports de Paris font partie intégrante, effectivement, de leur territoire et préféraient sans doute en avoir la maîtrise plutôt que de la concéder, effectivement, à d'autres. Vitrine suburbaine, on l'a vu, c'est l'idée, effectivement, que par leur taille, par les fonctions, par les usages qu'ils déploient, ben, ces espaces ne sont pas du tout étrangers, effectivement, à la ville qui les entoure et donc déploient aussi des images, des référentiels qui peuvent être à la fois positifs et à la fois critiquables aussi. Prototype, l'idée qu'effectivement ces équipements doivent aussi être un moment en avance, dans une certaine avance technologique, conceptuelle, par rapport effectivement à la taille qu'ils représentent. Et puis, lieu critique de la ville à venir, donc là je vous renvoie notamment à un certain nombre d'opuscules, comme par exemple l'opuscule de Marc Auger, Non-lieu, qui commence effectivement son texte par une critique de l'aéroport, ou les réflexions sur les hyperlieux, sur la ville hypermoderne de François Hacher, qui effectivement interroge l'aéroport comme lieu critique, dans la mesure où effectivement il agrège un certain nombre de questions qui touche à la ville contemporaine et notamment à ses relations entre ville et technique. Donc un lieu de représentation qui, en même temps, se mélange, s'entrelâche, s'agrège, ce qui fait qu'effectivement, la représentation de l'aéroport est assez complexe et ce qui peut aussi expliquer, effectivement, les enjeux qui sont à l'œuvre dans les différentes controverses actuelles, notamment concernant le devenir de ces lieux. Je passe donc sur l'usage ou la perception effectivement du lieu dans le cinéma en vous référant à ces différents films. Évidemment, je vous conseille les deux films du bas. Bon, les deux duos sont très bien aussi. Celui en haut à gauche est très drôle, hein, qui d'ailleurs part d'une histoire réelle. Hein, c'est l'histoire de cet Iranien en fait qui était apatride en fait et qui a séjourné 17 ans à Roissien. Un film a été fait d'ailleurs, je crois, avec Tom Hanks, hein, donc qui montre qu'effectivement il y a aussi des habitants dans les aéroports, mais enfin qui part aussi de cette histoire totalement incroyable en fait. Mais les deux films d'en bas sont intéressants parce qu'ils se passent intégralement effectivement dans un aéroport, comme ceux d'en haut d'ailleurs. La Jetée à droite, donc de Chris Marker, hein, un film qui est une sorte d'anticipation un peu apocalyptique qui notamment se passe à Orly. Et puis le très beau film de Pascal Ferrand, donc à gauche, Bird People, qui est sorti il y a quelques années, donc qui se situe entièrement effectivement à Roissy. Et donc qui associe effectivement à la fois la poésie et en même temps le caractère paradoxal d'un lieu qui est un peu hors de son espace. Alors, un lieu de représentation, ce qu'on peut voir aussi, c'est que c'est un espace qui finalement a des empreintes diffuses, et c'est là où je voulais revenir sur le fait que l'aéroport ne peut pas non plus se considérer uniquement dans le périmètre stricto sensu de son enceinte juridique, je dirais, donc définie territorialement. Bien sûr, un aéroport, c'est des plateformes aéroportuaires avec des sites, donc les aérogares, avec le tarmac, avec des dépendances aussi, des hangars, avec aussi toute une série d'installations qui se trouvent dans l'enceinte des aéroports, des hôtels, des parkings, des centres commerciaux, etc. Un aéroport a aussi des rives, des clôtures, et au-delà des clôtures, des espaces qui peuvent être stérilisés, ou en tout cas qui sont concernés évidemment par l'activité de l'aéroport, et donc notamment par le plan d'exposition au bruit qui régit effectivement leur utilisation ou leur non-utilisation. Et ces espaces-là, qui en même temps sont des espaces qui sont communaux, sont aussi des espaces à enjeu, comme le montrait par exemple ce chemin de ronde qui avait été aménagé autour de l'aéroport d'Orly et qui pourrait être effectivement réactivé dans la mesure où ça peut aussi faire l'objet effectivement d'un espace libre qui permette effectivement la circulation dans cet espace. À Schiphol, par exemple, à Amsterdam, le chemin de ronde a été réactivé et fait l'objet en fait d'une promenade qui ensuite rallie effectivement d'autres espaces. Donc ces questions effectivement des rives, des clôtures, qui à la fois sont des espaces qui sont stérilisés par le plan d'exposition au bruit, des espaces qui peuvent être aussi stérilisés par les consignes sécuritaires, on l'a vu avec ce drame qui s'est produit en Côte d'Ivoire tout récemment, sont aussi des espaces communs qui effectivement appartiennent à la collectivité et qui sont à enjeu. Les territoires sous emprise, donc évidemment sous emprise de leur fonction et de leur trafic, mais d'autres territoires effectivement sont sous emprise, notamment sous emprise des routes aériennes. Donc on retrouve effectivement cette question du plan d'exposition au bruit, où effectivement, selon le choix qui est fait des routes aériennes, des espaces qui sont en dessous vont être plus ou moins affectés par le bruit, notamment. Des portes d'entrée urbaines, qui nécessitent du coup des équipements d'accès par les infrastructures d'accès aux villes, mais aussi éventuellement par des gares, par exemple par des gares de transport ferroviaire, on l'a vu à propos de Hong Kong, ou par exemple par l'accès soit à la gare de l'Est, soit à la gare du Nord, qui accueille effectivement l'arrivée du RER B. Donc c'est là où on retrouve effectivement un dispositif qui va bien au-delà effectivement de l'enceinte de l'aéroport. Des sillons aériens, en creux des territoires qui peuvent être ignorés ou traversés aussi par ces équipements, et puis un certain nombre de codes, de codes visuels, de codes sonores qui appartiennent effectivement à ces espaces et qui montrent là aussi son empreinte importante. Alors, un lieu de pouvoir, on l'a vu également, donc un lieu de pouvoir parce qu'effectivement, ces aéroports ont été créés à l'occasion par la plupart du temps des États, et puis à l'occasion effectivement de grands événements politiques métropolitains. Mais c'est un lieu de pouvoir aussi parce qu'effectivement les aéroports se situent sur une carte d'un réseau libéralisé qui effectivement est rejoint aussi par un certain nombre d'acteurs des compagnies aériennes, aussi d'acteurs commerciaux et notamment au travers de l'emprise de plus en plus importante des duty-free, des centres commerciaux qui se situent effectivement dans ces aéroports. Un lieu de pouvoir aussi par le fait qu'effectivement il se traduit sous la forme de méga-projets qui peuvent effectivement rentrer en conflit avec d'autres usages ou avec d'autres volontés. Et de ce point de vue-là, effectivement, c'est devenu un espace public, au sens où effectivement c'est une forme de territoire qui cristallise parfois un certain nombre de divergences. Alors, Europa City n'est pas sur l'enceinte de l'aéroport, mais en même temps travaille aussi sur cette proximité. On l'a vu au travers des débats, on l'a vu au travers effectivement de la privatisation d'Aéroports de Paris. On ne pensait pas forcément qu'effectivement ça allait conduire à un tel débat, voire un référendum, etc. Où on sent qu'effectivement c'est un enjeu de débat public. Et puis on l'a vu bien sûr au travers de Notre-Dame-des-Landes, mais on peut le voir aussi au travers de l'usage des aéroports, ne serait-ce que par exemple aux États-Unis. Quand Donald Trump, dont on voit l'un des accessoires, c'est-à-dire la casquette, enfin c'est pas lui, mais c'est la casquette, fait ses meetings donc, dans un hangar de l'aéroport d'Orlando en 2017, et quelques mois plus tard, une fois qu'il est élu, quand les aéroports deviennent des lieux publics en fait, de manifestation contre le Muslim ban, au même titre que l'aéroport de Francfort a fait l'objet à plusieurs reprises effectivement de manifestations dans l'enceinte de l'aéroport contre notamment les effets du transport aérien. Donc ce sont des équipements qui certes effectivement ont un caractère privé dans la mesure où effectivement ils sont gérés, ils sont contrôlés par rapport à certains usages, etc. Mais en même temps ce sont des lieux qui effectivement sont aussi des scènes publics et qui, de fait, sont aussi intéressants à percevoir de ce point de vue-là. Alors, La conclusion sous la forme d'une question, hein, l'habitabilité de l'aéroport, est-ce qu'un aéroport est habitable? On pourrait se dire, ben non, c'est incohérent. En même temps, quand on voit effectivement l'aéroport d'Orly, sur cette photo, qui est entouré d'une population quand même de plusieurs dizaines, de plusieurs centaines de milliers d'habitants, qui est fréquenté par des dizaines de milliers de voyageurs, qui est où se trouvent effectivement des dizaines de milliers d'emplois, on constate qu'effectivement c'est un équipement qui fait partie de la métropole, qui est métropolitain, et donc on pourrait se poser la question effectivement de l'habitabilité de cet aéroport, notamment au prisme des questions relatives à la ville durable, question qu'on abordera plus précisément à l'occasion de la prochaine conférence. Donc c'est un sujet, c'est un des sujets, je dirais, les plus difficiles de l'aménagement, c'est-à-dire comment faire avec ce qui est là. On ne peut évidemment pas fermer l'aéroport, on ne peut pas le supprimer, on ne peut pas faire table rase. Ça fait partie effectivement de cet espace métropolitain, de cet espace régional. Et en même temps, son histoire, sa fonctionnalité soulève un certain nombre de problèmes critiques, hein, par rapport à l'environnement, par rapport au changement climatique, par rapport aux nuisances, par rapport à des conflits d'usage aussi. Donc c'est une question qui est posée effectivement aux aménageurs, mais aussi aux édiles. Alors, de ce point de vue-là, un certain nombre de réflexions sont à l'œuvre, qui ne sont pas forcément suivies, évidemment, d'effets directs, parce que ça met en jeu, vous imaginez bien, des acteurs, des échelles qui sont très complexes. Mais je voudrais finir sur l'exemple de la Glatal Valley, donc autour de l'aéroport de Zurich, qui est assez proche, en fait, de la ville, qui est là aussi desservie par le train. Et avec cette réflexion de grande échelle qui a été menée, en fait, par... Donc un collectif, hein, qui s'appelle Crocodile, qui s'est auto-saisi en fait de la question. Hein. Donc c'est un collectif d'architectes, d'urbanistes, d'ingénieurs, qui a voulu réfléchir, comme vous le voyez, à très grande échelle sur cette question effectivement de la relation de l'aéroport à la ville. Hein. Aéroport donc qu'on voit en haut à gauche avec le tracé des pistes qui est particulièrement visible. Et puis donc le grand lac de Zurich, et puis effectivement la ville qu'on voit à droite. Donc cette nécessité effectivement de penser la place de l'aéroport dans la métropole à une grande échelle, ce que représente effectivement cette carte. Donc ça, je pense que c'est un point très important et qui noue des liens avec d'autres pensées planificatrices, telles que par exemple celle qui a présidé à l'aménagement de Saclay, où on a eu un élargissement finalement de la focale de l'aménagement pour réfléchir à ces interdépendances d'échelle, mais aussi aux différents conflits d'usage qui pouvaient se produire. Alors ce projet, il se construit aussi à travers l'existence effectivement d'une trame ou d'une structure verte, ou en tout cas qui s'appuie effectivement sur des lieux, qu'il s'agisse de parcs ou des lieux hydrographiques, effectivement, qui permettraient de retrouver effectivement une structure naturelle à l'aménagement qui est là. Et puis surtout, il étudie en fait effectivement les différents liens possibles que pourrait nouer l'aéroport avec sa ville, avec les contraintes que cela aurait. Le manifeste qui conclut effectivement ce projet est assez intéressant aussi, même si on pourrait l'assimiler effectivement à quelques incantations, mais traduit aussi les questions que pose la réintégration effectivement de l'aéroport à la ville. Donc vous devez considérer la ville et la campagne ensemble, donc effectivement l'aéroport étant hors la ville et parfois situé effectivement sur des terrains agricoles a été rejoint par la ville, et donc cette question effectivement de l'extériorité de la ville doit être traitée au travers de la réintégration de l'aéroport dans l'espace urbain. Vous devez planifier à grande échelle, vous devez préserver en fait les espaces naturels, parcs, eaux, etc. Donc privilégier en fait cette structure. Vous devez relier effectivement l'existence de cette plateforme à la fabrique existante, hein, donc au tissu constitué urbain. Donc cette difficile en fait relation effectivement de l'aéroport à la ville qui l'entoure. Vous devez bâtir densément. Alors ça, c'est une autre question qui se pose, c'est qu'effectivement Les aéroports sont des lieux finalement où la densité n'est pas si importante que cela. Alors on pourrait dire, ben oui, parce qu'il y a des avions, etc. Mais il y a des aéroports qui sont plus denses que d'autres. Et donc plutôt que de s'étendre, effectivement, travailler plutôt sur une économie de l'intervention qui viserait plutôt à densifier en fait ces lieux. Vous devez donc utiliser des moyens de transport friendly, donc environmentally friendly. J'imagine que c'est tout ce que vous faites. Vous devez mixer les fonctions, créer un sens de l'identité, assurer effectivement des espaces urbains et puis planifier dans un souci effectivement d'économie d'énergie. Donc toute une série de réflexions sont à l'œuvre, évidemment qui ne sont pas encore une fois complètement mises en application, mais cette conclusion c'était aussi pour vous dire voilà, qu'un certain nombre de villes de régions, voire de collectifs qui s'auto-saisissent de la question, effectivement, pensent cette question des grands équipements aéroportuaires et de leur place dans la ville, sans vouloir non plus les condamner, mais en essayant effectivement de réintégrer ces mastodontes effectivement dans l'espace urbain et d'en saisir aussi des opportunités possibles pour l'avenir de la ville.